Merci David pour ces mots d'accueil. Merci à l'église d'Alésia de nous recevoir dans ces beaux locaux. Pour cette conférence organisée en partenariat donc avec l'église d'Alésia et la librairie Jean Calvin, comme cela vient d'être dit, mais aussi avec la Société d'histoire du protestantisme français, une conférence qui, dans le cadre de l'ensemble des conférences organisées par la librairie Jean Calvin cette année, se situe évidemment à Paris. Vous savez que la librairie, on organise d'autres à Cholet ou à Alès ou à Aix-en-Provence, par exemple, à Metz aussi, et que la librairie organise ses conférences dans le cadre d'une thématique. Cette thématique, cette année, est consacrée aux protestants et aux protestants qui parlent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un des aspects fondamentaux de la vie de l'Église protestante est centré, évidemment, autour de la prédication, hein, ce qu'on appelait le prêche. Et cette prédication est évidemment une des facettes de la manière de parler en protestantisme, mais n'est pas la seule facette, puisque nous avons commencé le cycle de conférences en janvier, alors par une conférence paradoxale, tout ça pour situer un peu cette conférence qu'on va avoir cet après-midi, hein, par une conférence paradoxale, puisqu'il s'agissait de la parole muselée d'un certain protestantisme, et on avait vu avec Neil Blue hein, comment les Mennonites, en partie, ont eu la parole muselée simplement parce qu'on les a persécutés et mis à mort, y compris par le protestantisme réformé ou luthérien. Et puis, on a ensuite continué ce cycle par une conférence organisée à Paris, cette fois avec François Doss et Henri Blocher, hein, qui nous ont parlé d'une autre manière de parler en protestantisme. Cette fois, c'était avec la découverte de Paul Ricoeur, comment Paul Ricoeur, notamment, a réuni des massifs considérables, massifs de la philosophie structuraliste, massifs de la philosophie linguistique, et un massif plus difficile à réconcilier avec ces deux massifs-là, hein, comme dit François Doss, c'est lui qui emploie cette expression de massif, le massif biblique, hein, ce que Heidegger, par exemple, un autre grand philosophe du XXe siècle, a complètement rejeté, il a complètement mis de côté ce massif biblique. Ricoeur, lui, au contraire, à chercher, hein, en protestant, à réconcilier l'ensemble de ces trois massifs hein, pour nous donner une philosophie brillante, hein, parfois complexe, mais très pertinente pour l'étude de la Bible et pour parler en protestantisme. Et puis, on a abordé aussi, parlé avec les écoles du dimanche, et cet après-midi, donc, nous allons évoquer une manière de parler au XVIe siècle, qui est bien sûr la prédication. On va l'entendre, mais pas seulement. C'est aussi versifié. Je pense ici, et cela je pense sera invoqué, hein, mais au psaume de Clément Marot, hein, mis en vers par Clément Marot. Et vous n'êtes pas sans savoir que le psautier est un outil, un transmetteur fondamental pour les protestants au XVIe siècle de leur foi. Et puis il y a aussi la polémique. Je pense à ce savoureux texte hein, de Jean Calvin, le traité des reliques, peut-être sera-t-il évoqué cet après-midi. Donc il y a eu plusieurs manières de parler déjà au XVIe siècle, la prédication versifiée et polémiquée. Et je vais donc laisser tout de suite la parole à Olivier Millet qui enseigne la littérature française du XVIe siècle à la Sorbonne, qui a commis plusieurs ouvrages, une très belle biographie de Calvin, notamment avec des parties consacrées à l'atelier d'écriture de Calvin, partie tout à fait remarquable. Je vous invite à découvrir cette petite biographie qui est très très stimulante, dans laquelle on apprend beaucoup. Un autre ouvrage qui est une lecture, une découverte, comme c'est indiqué ici, personnelle de la Bible, hein, où Olivier Millet qui a aussi consacré plusieurs heures à enregistrer. Hein, donc il y a aussi tout un coffret de CD que vous pourrez trouver, non pas ici, mais à la librairie Jean Calvin de Paris, rue de Clichy. Je vous invite à venir la découvrir. Hein, vous pourrez trouver ces enregistrements ici. Vous aurez déjà le livre hein, avec cette approche personnelle d'Olivier Millet du texte biblique. Alors je lui laisse tout de suite la parole pour une cinquantaine de minutes autour de cette thématique que nous avons définie ensemble. Et puis après, si vous le voulez bien, hein, on pourra rebondir sur ce qui aura été dit au travers de questions, de remarques, hein, de développement peut-être que vous voudriez voir compléter hein, sur ce qu'Olivier Millet aura déjà lancé et proposé à notre réflexion.
Merci cher Franck pour ces cette introduction qui situe le propos dans le cadre plus vaste de ce cycle de conférences, et merci pour l'accueil aussi à cette église d'Alésia. Je voudrais aujourd'hui aborder cette question de la prédication au XVIe siècle à partir d'un point de vue très large qui intéresse de plus en plus les études historiques. Je prends l'histoire là au sens très large, l'histoire des historiens, l'histoire des spécialistes d'histoire de la littérature, comme Franck Lestringant, mon collègue, et moi-même, ou les historiens de la musique, etc. Et cette perspective très large, c'est celle de la question des médias, de ce qu'on appelle aujourd'hui les médias, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on atteint les gens et qu'est-ce que les gens perçoivent et par quels moyens perçoivent-ils les messages qui circulent. Et évidemment, la prédication et l'évangélisation elle-même fait partie forcément de ces médias. Et vous le savez que la Renaissance a vu sans doute, je dis sans doute parce que les historiens discutent ces questions, évidemment, l'ampleur de cette transformation, une révolution des médias, liée notamment aux livres imprimés. Mais la révolution religieuse, qu'est la réforme protestante, s'est emparée de ce phénomène, ou plutôt a coulé son message dans ces nouveaux moyens que représentait l'imprimerie, j'en parlerai tout à l'heure. Au croisement de plusieurs disciplines, l'histoire tout simplement, tout court, en particulier l'histoire de la culture, mais aussi de la sociologie, l'histoire de la littérature, l'histoire de la musique avec le chant, etc., que je voudrais situer cette perspective médiatique sur la question de la prédication au siècle de la Réforme. Tout à l'heure, en venant ici, je suis passé devant une boutique de produits, vous savez, d'appareils pour écouter, pour entendre, amplifon. Et leur publicité, c'est on voit quelqu'un qui est sans doute un peu sourd, et à côté, il y a un oiseau. Bon, et la publicité recommande d'entrer dans cette boutique en disant, mais qu'est-ce que vous percevez? Le monde est si beau à entendre, et écoutez de nouveau les oiseaux. En réalité, les oiseaux, nous ne les entendons plus parce qu'ils ont été à peu près totalement détruits avec les insectes par l'industrialisation et l'urbanisation. Ce matin, j'étais dans l'arboretum de Chèvreloup que je vous recommande près de Versailles, qui est passé de 90 à 190 hectares, gigantesque, j'étais seul. C'était plein d'oiseaux. Alors là, on entendait des oiseaux, mais il y avait quand même des bruits des avions au-dessus, des petits avions de tourisme de Villacoublay. Voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors, les hommes du Moyen-Âge vivaient dans un monde sonore tout à fait différent, qui était entièrement naturel, qui était transformé par l'homme, bien sûr. Mais cette transformation n'avait pas détruit encore la nature et donc n'avait pas détruit l'univers sonore dans lequel on vivait depuis les origines de l'humanité, et qui était un univers où on entendait constamment des oiseaux et où finalement les seuls bruits humains qui venaient s'intercaler là étaient profondément humains, justement. Ce n'était pas des bruits, c'était des sons en réalité. Et je partirai de cette question, qu'est-ce qu'on entendait à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle? Pour ceux que ça intéresse, je recommande ce livre, je commençais par ce propos, parce que je suis en train de lire ce livre qui est magnifique, la géographie, ce qu'il savait de la France, entre 1100 et 1600. Et par savait de la France, il faut d'abord comprendre ce qu'il percevait, qu'est-ce que les gens percevaient du monde dans lequel ils vivaient. Mais justement, tout son premier chapitre établit le fait que les gens vivaient dans un monde de sons, et qui était d'abord un monde d'oiseaux. C'était plein d'oiseaux partout. Et donc, quand les prédicateurs ou quand les psaumes de Clément Marot nous parlent de chant, le chant humain rejoint le chant des oiseaux. On était dans un monde qui était profondément humain parce qu'il était encore profondément naturel, si vous voulez. Et là, c'est une première révolution qui a eu lieu aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de bruit. Et aujourd'hui, l'Évangile s'inscrit dans un monde de bruit. Ça change considérablement le statut et les moyens aussi qu'on va utiliser pour la prédication. Donc un monde dans lequel de bruit naturel, dans lequel s'inséraient les sons humains. Et du point de vue chrétien, les sons, c'est très important, parce que, et c'est la deuxième question, après l'environnement naturel et social, il y a l'environnement culturel de l'Évangile et de la prédication. Et depuis des siècles et des siècles, cette prédication se faisait pour l'immense majorité des Européens. La notion de Rome n'existe pas encore à l'époque. Elle émerge progressivement au XVIe siècle. La chrétienté, on disait. Pour l'immense majorité des gens, c'était la participation à des rites. Et ces rites, c'était donc des gestes, aller en pèlerinage, proche parfois la chapelle qui est à 3 km, construite sur une ancienne source qui donnait lieu à un culte païen dans l'Antiquité, ou plus éloigné, un site marial à quelques kilomètres, à quelques dizaines de kilomètres, ou même beaucoup plus lointain. Les grands sites, au Moyen-Âge, ils sont connus, hein, Rocamadour, Le Puy, etc., toute la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou beaucoup plus loin encore, Rome ou Jérusalem. Jérusalem, ne l'oublions pas, qui est encore le centre du monde jusqu'à la Renaissance, hein, dans l'imaginaire que les gens se font du monde dans lequel ils vivent. Donc des pratiques. On se met en route, on se met en chemin. Et puis le dimanche, chaque semaine, on va à la messe. Depuis le XIIe siècle, l'Europe que nous connaissons encore un peu, telle que nous l'avons connue surtout dans nos campagnes, s'est constituée, hein, au XIIe, XIIIe siècle, c'est-à-dire un maillage très fin de villages, des populations rassemblées en villages, autour d'une église où la messe est dite à peu près tous les dimanches. C'est le monde dans lequel vivent 85% des Européens au Moyen-Âge, depuis le XIIe siècle et jusqu'à la révolution industrielle du XIXe siècle, et encore au-delà d'ailleurs. Et là, donc, ce maillage, c'est-à-dire ce cadre social, c'est celui de la chapelle ou de l'église, pour le village en général l'église paroissiale, où un rite a lieu, c'est la messe. Donc là aussi des gestes, se déplacer, assister à la messe. Alors, attention, l'assister à la messe, ce n'est pas la messe d'aujourd'hui. Elle est dite en latin, et les gens ne peuvent pas suivre dans le détail ce qui est dit par le prêtre dans le rite. Il n'est d'ailleurs même pas sûr que les prêtres desservants comprennent eux-mêmes le détail de ce qu'ils disent, puisque dans beaucoup de cas, ils n'ont pas reçu la formation nécessaire. Ils ont appris par cœur. C'est une société de l'oreille. Hein. On apprend beaucoup de choses par cœur. On sait les prêtres savent le rite par cœur. Ils peuvent dire la messe, peut-être avec beaucoup de fautes, peu importe, mais ils ne comprennent pas forcément tout. Ils ont, sauf dans les paroisses particulièrement importantes, où le prêtre a été formé, c'est-à-dire formé à l'époque, ça veut dire dans une université. Il n'y a pas de séminaire. Hein. Ailleurs, la formation a été expéditive et le prêtre. Ce qui est important, c'est que le rite ait lieu, que la messe soit dite, comme on disait. Ce n'est pas que les gens suivent dans le détail et comprennent dans le détail ce qui est récité en latin, une langue que les gens ne connaissent pas. Donc, ils comprennent certaines formules, bien sûr, de la messe, les plus récurrentes. Mais il n'est même pas évident qu'ils sachent par cœur le credo, qui est en latin, même le credo, la confession de foi. Le Notre Père, en général, on pense que, dans beaucoup de cas, ils le savaient, mais c'est loin d'être acquis. On le sait par les visites pastorales. Donc, la participation à un rite. La prédication est exceptionnelle dans ces circonstances-là. L'Évangile est lu en latin. Donc, les gens n'ont accès, si vous voulez, au texte fondateur de la foi qu'à travers ce que le desservant, éventuellement, va dire, dans ce qui ne sera pas une prédication, mais un message un peu simple adressé à la communauté par quelqu'un qui n'a pas reçu, en général, de formation théologique et qui doit lire le texte de la Bible, normalement en latin, à ses ouailles. Attention, au Moyen-Âge, il existe des Bibles en français. Ce n'est pas du tout la réforme protestante qui a inventé la traduction de la Bible en français. Mais ces Bibles, ces traductions françaises, ne sont pas des traductions au sens moderne, actuel, c'est-à-dire au sens humaniste. Ce ne sont pas des transcriptions fidèles de la Bible en latin en français. Ce sont des adaptations, souvent des résumés. Donc, la Bible en français existe, mais ce n'est pas ce que nous appelons une traduction. Il est vrai, cependant, il ne faut pas non plus assombrir le paysage, que des études récentes montrent que dans les villes, je parle maintenant des villes, c'est autre chose, où vit même une petite minorité seulement de la population, que dans les villes, les Bibles, y compris en français, mais dans le sens que je dis, pas des traductions exactes, des adaptations, si vous voulez, sont de plus en plus présentes et mises à la disposition des gens. Une enquête en cours de l'université de Stockholm, je crois, Groningen, aux Pays-Bas, a achevé l'étude pour le cas d'Amiens et montre qu'à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle, dans la ville d'Amiens, il y a des Bibles, y compris en français, jusque dans les paroisses, et ces Bibles sont attachées à la porte, et à l'intérieur, pour que les gens puissent aller voir le texte en français. Donc, la réforme protestante
dans la mesure où elle va, un, diffuser partout des Bibles en français, et deuxièmement, traduite de manière exacte, avec les savoirs, les nouveaux savoirs, à partir de l'hébreu pour l'Ancien Testament, à partir du grec pour le Nouveau Testament, bon, ce que nous appelons, nous, des traductions, hein, au sens, si vous voulez, savant du terme, des traductions exactes. La réforme protestante n'a pas entièrement innové. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a plutôt répondu à ce qui semble être une demande des laïcs à la fin du Moyen-Âge, l'accès au texte français. Et une demande à laquelle l'institution traditionnelle, l'Église latine, si vous voulez, essayait de répondre, hein, aussi, comme elle pouvait. Alors je reviens à ces pratiques. Se déplacer le dimanche, aller assister à la messe. Une messe plus ou moins dite, dans une langue qu'on ne connaît pas, et où la prédication n'a pas véritablement lieu, sauf exception. Ce qu'on appelle la prédication avait lieu depuis le XIIe, XIIIe siècle, essentiellement dans les villes, là où il y avait un clergé très formé, dans les grandes paroisses, formé théologiquement, après des études à l'université, en faculté de théologie. Ou bien, là où il y avait, là où étaient présents, ce qu'on appelle des membres des ordres mendiants, c'est-à-dire des moines franciscains ou dominicains. Depuis le XIIe siècle, dont la mission était de prêcher. C'était presque, je dirais, sauf exception, presque un privilège, enfin, c'était l'affaire de ces ordres mendiants que de prêcher dans ces grandes églises urbaines, églises cathédrales, églises aussi qu'on appelle, vous savez, où il y a des chanoines, c'est-à-dire des églises collégiales, où il y a un clergé formé qui a les moyens de payer un prédicateur itinérant, en général un dominicain ou un franciscain, qui était payé pour cela, qui venait spécialement, hein, notamment au moment du carême, hein, et les plus brillants parmi eux recevaient des traitements, d'ailleurs, des honoraires assez élevés. Donc la prédication est un événement, soit un événement urbain, de paroisses bien dotées, soit un événement exceptionnel, lié à certains moments de l'année liturgique, de l'année chrétienne, en particulier des carêmes et des grandes fêtes, et dans la bouche de ces prédicateurs franciscains ou dominicains. Cette prédication, qu'on pourrait appeler savante dans ce cas-là, ne ressemble pas du tout à notre sermon moderne, à notre prédication moderne, ni aux catholiques modernes, ni aux protestants modernes. Les sermons que nous connaissons aujourd'hui, ils ont été créés au XVIe siècle. Sous l'impulsion d'Érasme, essentiellement, il y a un grand tournant vers 1530 de la prédication. On abandonne le schéma savant, cultivé notamment par les grands prédicateurs urbains, par les franciscains et par les dominicains, ce qu'on appelle le sermon scolastique. Le sermon savant, c'est-à-dire le sermon scolastique, qui était terriblement compliqué, au profit des formes plus simples de la prédication moderne. Sous l'influence du plus grand humaniste du début du XVIe siècle, Érasme, puis sous l'influence de la réforme protestante elle-même, c'est-à-dire essentiellement de Luther, de Calvin et des autres réformateurs protestants. Alors, un mot pour le sermon scolastique, pour que vous ayez une idée de sa complexité. Et les gens venaient à ces sermons savants comme à un spectacle, comme à un numéro de virtuosité extraordinaire, parce que justement exceptionnel. Et ça ne touchait pas les campagnes, hein, ça ne touchait pas 80 ou 90% de la population, seulement des grands centres religieux ou des grandes villes. Le prédicateur commençait par ce qu'on appelle un prothéma, c'est-à-dire qu'il prenait un verset dans la Bible, qu'il citait en latin d'ailleurs, et qu'il commentait brièvement un verset. Et puis ensuite, il prenait son thème, le thème, qui était un autre passage de la Bible, également cité en latin, immédiatement traduit en français, bien sûr, mais cité d'abord en latin. Et tout le sermon allait être construit dans un numéro extraordinairement virtuose, dans un commentaire du deuxième passage rapporté au premier passage biblique, c'est-à-dire au prothéma. Ça, c'est la construction de l'ensemble de la prédication. Donc on attendait le prédicateur, sur la virtuosité qu'il manifestait, à commenter un passage de la Bible en rapport avec un autre passage de la Bible. Deuxièmement, ce commentaire était construit en fonction d'une lecture allégorique de la Bible, ce qu'on appelle les sens spirituels. Du sens littéral, on tire un sens moral, c'est-à-dire qui s'applique à la vie ordinaire du fidèle, ou à la vie de son âme, dans un sens individuel, si vous voulez, avec des conséquences morales, d'ailleurs, et sociales. Ensuite, un sens allégorique, c'est-à-dire, on commente l'Ancien Testament, par rapport au Nouveau Testament. Autrement dit, on interprète toujours l'Ancien Testament de manière symbolique par rapport au sens qu'il peut prendre. Exemple, s'il y a un sacrifice d'Isaac par Abraham, en Genèse 19, 21, je crois, vous me corrigerez. Bon. Eh bien, on va dire qu'il faut trouver un sens à ça par rapport au Nouveau Testament. Il n'y a qu'un sens possible, on va tuer quelqu'un, c'est un fils. Eh bien, Isaac, c'est la figure du Christ qui va être mise à mort sur la croix. Avec un petit problème, c'est que Abraham reçoit l'ordre de Dieu de mettre son fils à mort, ou croit recevoir cet ordre. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas un Dieu qui dit qu'il veut que son fils soit mis à mort. Ça posait quelques problèmes, cette lecture allégorique. Donc on était obligé de passer sur certains détails, etc. Ça, c'est la lecture allégorique qu'on appelle aussi typologique. Lecture de l'Ancien Testament uniquement en fonction du Nouveau Testament. Et s'ajoutait un troisième sens spirituel qui concernait les fins dernières, ce qui est bien après la mort. Jugement dernier, enfer, paradis, purgatoire, jugement dernier lui-même, Église, Jérusalem céleste et fin des temps. Alors, dans ce schéma prothématéma que j'ai indiqué, on déployait toute la virtuosité de l'interprétation symbolique de ces trois sens tirés eux-mêmes du sens littéral. Donc c'était un numéro de haute virtuosité, vous le voyez, avec beaucoup de latin d'ailleurs, parce que ces gens, ces prédicateurs, ils pensaient et ils parlaient en réalité en latin normalement. Donc ils faisaient un gros effort pour parler en français, alors soit qu'ils ne pouvaient guère comprendre que le français. Cette prédication est donc exceptionnelle. Elle est virtuose, exceptionnelle, et dans la bouche de pas énormément de prédicateurs, elle n'atteint pas la totalité de la population, qui se contente, elle, surtout dans les zones rurales et dans le quotidien hebdomadaire, au mieux d'un petit prône assez pratique du curé, supposé que le curé soit présent. Parce qu'en général, les curés n'étaient pas présents, ils se contentaient de toucher les revenus de la dîme ecclésiastique, donc les revenus, si vous voulez, de l'impôt payé par les paysans à l'église, et ils nommaient un desservant, la plupart du temps, un peu ignorant, pour le représenter, simplement qui avait reçu les ordres et qui pouvait dire la messe. Voilà un peu la situation de la prédication à la fin du Moyen-Âge. Il ne faut pas la tirer trop au noir, mais il ne faut pas non plus l'embellir, sinon la réforme protestante n'aurait pas eu lieu. La réforme protestante correspond à un besoin extraordinaire de la population d'accéder à la parole de Dieu. Ce besoin, l'Église traditionnelle essayait d'y satisfaire comme elle pouvait, mais elle n'y a pas réussi avec les moyens traditionnels. C'est-à-dire que la structure ecclésiastique que je viens de décrire, hiérarchique, au fin fond des campagnes, un clergé mal formé, pas préparé à la prédication, et souvent pas tout à fait à la hauteur de sa tâche, parce qu'il n'a tout simplement pas été formé. Avec un problème culturel et intellectuel derrière, quand même, quand je vous ai décrit tout ce système de prédication, je parle de la vraie prédication urbaine ou des ordres mendiants, fondée sur l'interprétation allégorique de la Bible, ça suppose quand même des savoirs extraordinairement sophistiqués. Et c'est pas facile à vulgariser cette interprétation-là de la Bible. Et là, la réforme protestante va évidemment tout changer, puisqu'elle va dire que tous les textes de la Bible méritent qu'on s'intéresse à eux, à leur sens littéral, et peuvent avoir un sens chrétien édifiant et chrétien, de manière presque immédiate. C'est la grande idée de Luther, qui va être reprise par Calvin et par presque tous les réformateurs, c'est que le sens spirituel dans la Bible, c'est bien souvent le sens littéral lui-même. Il suffit de s'intéresser au texte biblique pour lui-même, pour lui trouver une profondeur morale ou spirituelle, chrétienne, sans passer par cet exercice de haute voltige qu'est l'interprétation symbolique dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, maintenant parlons, si vous le voulez bien, de la question de l'écriture, donc de l'imprimerie. L'écriture, c'est ce qu'on appelle en anglais la literacy, c'est-à-dire c'est la question de l'accès plus ou moins grand d'une population plus ou moins alphabétisée au message écrit, c'est-à-dire à partir du milieu du XVe siècle, imprimé. En sachant que l'imprimerie, inventée dans la vallée du Rhin, ou réinventée plutôt, parce que ça a été inventé en Chine bien avant, que l'imprimerie n'a vraiment déployé tous ses effets sociologiques et culturels qu'à partir du début du XVIe siècle. Dans les premières décennies, on imprime surtout des textes latins, hein, et surtout pour des savants. La première a un effet sociologique massif sur la population seulement à partir des premières décennies du XVIe siècle. À ce sujet, il y a les grandes études, dont certaines ont été traduites en français, donc c'est une révolution médiatique, d'Elisabeth Eisenstein, E-I-S-S-E-N-S-T-E-I-N. Il y en a qui sont traduites en français, que vous trouvez. C'est la première qui a étudié de manière systématique toutes les implications sociologiques et culturelles du fait que les sociétés européennes, et au-delà d'ailleurs, dans les nouveaux mondes conquis par les Européens, sont passées progressivement à la lecture de manière massive. Progressivement, car les chiffres qu'on connaît, c'est que au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, entre 8 et 10% seulement de la population est alphabétisée. On peut lire. Mais ça ne veut pas dire que seulement 8 ou 10% de la population sont touchés par l'imprimé. Car l'imprimé peut être relayé auprès des illettrés par ceux qui savent lire. Lire, on lisait encore largement à haute voix, hein, je vous rappelle, hein, depuis toujours. L'imprimé atteint même les illettrés, ceux qui ne sont pas alphabétisés, à travers la lecture à haute voix qu'un père de famille ou une mère de famille peut faire à ses enfants, quelqu'un qui sait lire dans un village peut faire à ses voisins, à ses amis, qu'un curé ou qu'un pasteur bientôt pourra faire à ses ouailles, etc. Donc l'imprimé remodèle en fait la culture de la majorité de la population en attendant que la majorité soit alphabétisée, c'est-à-dire en attendant un 18e, 19e siècle où ça va se faire progressivement de manière plus massive. L'imprimé donc est une véritable révolution parce qu'il permet deux choses. D'abord, pour ceux qui savent lire, ça permet de baisser les coûts de manière radicale de ce qui est écrit. Le manuscrit reste coûteux au Moyen-Âge. Et le livre imprimé, tout en ayant un prix tout de même, hein, c'est le premier objet économique capitaliste hein, du monde moderne, des sociétés européennes. Mais il devient accessible. Il devient accessible pour peu que les gens aient quelques revenus. Un artisan peut se payer un livre. Un livre peut-être pas très cher, mais il peut se payer un livre. Et ça va être bien souvent les psaumes de Clément Marot, un Nouveau Testament, quand ça ne sera pas une Bible, ou quand ça ne sera pas un traité de Jean Calvin, ou en Allemagne, un sermon imprimé de Luther. Donc, le livre va pénétrer de manière massive des couches, grâce à l'imprimé, des couches sociales qui n'avaient jamais pu pénétrer à travers les formes uniquement manuscrites qu'on avait connues en Occident jusque-là. Ça, c'est une première dimension. Je note à ce sujet que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la réforme protestante, qui se développe donc en France rapidement, entre 1520 et 1540, 1550, n'a pas utilisé le médium du sermon imprimé pour répandre ses idées. Alors qu'en Allemagne, les idées de Luther ont été répandues très rapidement, dès les années 1518-19, par des sermons imprimés de Luther. Il prononçait un sermon, puis il s'était pris en sténographie hein, pendant qu'il parlait. Il revoyait le texte. Si c'était en latin, il le traduisait en français, en allemand. Si c'était en allemand, ben, le travail était fait. Et c'était imprimé. Et on a des centaines et des centaines d'éditions en quelques années de petits textes de Luther comme cela, notamment de sermons, qui vont pénétrer partout en Allemagne. Des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires de sermons de Luther et ont été sans doute non seulement imprimés, mais ensuite lus dans des villages, pas seulement dans des villes, dans des villages, dans des familles, dans des corporations, dans des groupes d'amis, etc. La réforme protestante s'est diffusée aussi comme ça, pas seulement par la parole orale prêchée de prêtres qui rejoignaient le mouvement luthérien, mais surtout par tous ces petits écrits d'édification, et notamment des sermons. Or, en France, je ne vois pas, Franck connaît un peu la question aussi, je ne vois pas, il y a une ou deux exceptions seulement, de sermons imprimés entre 1540 et 1560. Je n'en vois pas. On a, dans le mouvement réformateur, mais qui n'est pas tout à fait luthérien, en 1522-23, à Meaux, donc c'est ce qu'on appelle le mouvement évangélique français, hein, qui précède et en même temps accompagne la réforme protestante en France. Alors Meaux, sous l'impulsion de l'évêque Brissonnet, autour de Marguerite de Navarre, qui soutient ce mouvement, on imprime effectivement quelque chose qui ressemble à des sermons, les 52 évangiles, épîtres et évangiles pour les 52 dimanches de l'année, et c'était imprimé à des centaines et des centaines d'exemplaires. Et là, ce sont des sermons méditatifs, mais quelque chose en français, hein, quelque chose qui ressemble à des sermons. C'est voilà, une exception. Et la deuxième, c'est qu'on a quelques sermons imprimés, je crois, à Grenoble en 1525 par un prédicateur Maigret. Bon, mais c'est tout. Comme, alors, j'ai essayé de donner dans un article récent une interprétation de ce phénomène. La prédication de l'Évangile protestant, c'est-à-dire qui se détache de l'institution traditionnelle, qui met au centre non plus les pratiques, et non pas ce qui est visuel et les pratiques religieuses, mais la foi en Dieu, qui sauve, la justification par la foi, et une foi définie comme confiance en l'Évangile salvateur. Cette prédication-là ne passe pas par le sermon imprimé. Elle est passée par le sermon oral, nous le savons, et elle est passée par d'autres formes littéraires que le sermon imprimé. Par toutes sortes de textes, des petits traités, des poèmes, des chansons, toutes sortes de textes qui relèvent de genres littéraires ou poétiques très divers, mais pas le sermon. Dans le fond, les premiers sermons imprimés que la réforme protestante va diffuser très largement sont les sermons de Calvin. Mais comment est-ce que ça s'est fait ? Calvin n'a pas voulu répandre. Calvin qui prêchait trois fois par semaine à Genève toute sa vie, disons de 1541 à 1564, trois fois par semaine. Ces sermons étaient pris en sténographie. Il y avait là, dans l'assemblée, il y avait des centaines et des centaines de personnes à chacun de ces sermons. On venait il y avait la population locale, mais on venait aussi de toute l'Europe. Il y avait là des sténographes, des élèves de Calvin, des secrétaires, des disciples. Calvin, c'est un atelier, comme Franck l'a rappelé. C'est un atelier d'écriture. Il y a des gens qui prenaient en sténographie, ce qu'on faisait au Moyen-Âge déjà, pour les grands théologiens, pour les grands prédicateurs. Urbain, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une institution médiévale. Il y a là des secrétaires qui prennent en sténographie tout ce que dit le prédicateur. Et nous savons que ces textes, ils ont été pris à partir de 1500, systématiquement, du milieu des années 1540, pendant plus de 20 ans, donc jusqu'à la mort du réformateur. Ils ont été conservés de manière manuscrite. Simplement, à Genève, au XIXe siècle, on ne s'intéressait plus à ça, et pour faire de la place sur les rayonnages de la bibliothèque, on voulait les jeter à la voirie, comme ça. Le papier ne valait plus rien à l'époque. Au XIXe siècle, le papier industriel, avec du bois, ne vaut plus rien. Donc on ne s'est pas rendu compte que ça avait une valeur infinie, ces sermons. Et quelques paquets ont été sauvés. C'est comme ça qu'on connaît aujourd'hui les sermons de Calvin. De ce qui a été sauvé, ce qui n'a pas été massacré au milieu du XIXe siècle par les responsables de la bibliothèque publique. Passons. Donc c'était pris en scénographie. Or, on voit, à partir des années 1550 surtout, imprimés de ces sermons qui ont été pris en scénographie. C'est-à-dire qu'ils étaient transcrits ensuite, mis au propre, si vous voulez, puis ça passait à l'imprimerie. Évidemment, pour des fins de propagande, pour que ces sermons imprimés atteignent des lecteurs qui ne pouvaient pas être à Genève, ni faire le voyage, ni être présents, et donc dans toute l'Europe francophone, pas seulement la France, mais aussi les Pays-Bas, etc., et au-delà. Or, Calvin n'a jamais donné de préface à ces sermons imprimés, qui sont de pure transcription orale écrite de ce qu'il avait dit oralement. Il n'a jamais donné. Pourquoi ? Parce que Calvin est un humaniste. Il considère qu'un véritable sermon doit être revu, corrigé, et se présenter littérairement comme un discours. C'est qu'il y a la dignité de ce qu'on appelle en latin oratio, un discours qui relève de la rhétorique et qui a des effets éloquents. Or, Calvin, comme je fais ce soir ici, Calvin improvisait en chair. Donc, ce qui était pris en sténographie de ses sermons, à ses yeux, ne relève pas de l'art de l'éloquence. Donc Calvin ne pouvait pas laisser imprimer, avec une préface de lui, des sermons qui n'avaient pas ce statut de discours éloquent, nous dirions aujourd'hui de genre littéraire du sermon. Donc il a laissé imprimer des sermons de lui, mais sans mettre de préface. C'est le seul cas de ses écrits où il ne met pas de préface, parce qu'il ne veut pas reconnaître comme, je dirais, production, je veux dire presque artistique, disons éloquente, de sa bouche et de sa plume. Par contre, il les laisse imprimer. Et donc, on a une préface de l'imprimeur qui dit « Avec l'autorisation de Maître Calvin, nous imprimons ces sermons afin que la parole de l'Évangile, et c'est vrai pour tous les prédicateurs, tous les réformateurs du XVIe siècle, ça se passe comme ça, atteigne au-delà des limites de la ville où la prédication a eu lieu, du temple où le sermon a été prêché, atteignent hein, des gens, surtout dans des pays où la prédication de l'évangile n'est pas libre. Donc à partir de Calvin, on a des sermons imprimés. On en aura encore sous Blaise, et ça deviendra un genre, hein, et chez les prédicateurs catholiques d'ailleurs, de la contre-réforme, qui très souvent feront imprimer leurs sermons, notamment les jésuites, mais pas seulement, et chez les prédicateurs protestants, 16e, 17e, et le siècle, et au-delà, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est un genre qui existe, correspondant à une prédication réelle, et très souvent transformée pour pouvoir passer à l'écrit, hein, et être diffusée sous forme de livre. Voilà pour le sermon. Ce n'est pas par le sermon qu'est passé l'évangile, le sermon imprimé, je veux dire, écrit, qu'est diffusé l'évangile en France, entre 1520 et 1560. C'est par d'autres supports. Ces supports sont, donc nous les connaissons, pour ce qui est de l'écrit, bien sûr, par ce qui nous en reste d'imprimés, par les imprimés, dont les historiens de la littérature, mais aussi les historiens plus généralement, évidemment, font leur délice pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Cela dit, ça reste un genre, même avec ces sermons de Calvin, on a quelques, disons peut-être 200, 250 sermons de Calvin imprimés sur des milliers et des milliers qu'il avait prêchés et qui avaient été pris en scénographie. On en a que 200, 300 imprimés peut-être. Ça n'est pas un genre très important. Donc l'évangile passait. D'abord, l'évangile était prêché par des prédicateurs. Au risque de leur vie en France, dans un pays où les autorités politiques réprime hein, le mouvement évangélique. Passer par des sermons prononcés en général. Alors, qui étaient ces prédicateurs? Comment se passait la prédication? Ce sont des phénomènes, la plupart du temps, clandestins. On invite les gens à venir dans une grange, dans une maison, ou dans un pré, ou dans un jardin, un peu à l'abri des regards de la police, si vous voulez. Ça peut être aussi, tout simplement, des prêtres de l'Église traditionnelle, parfois des moines d'ailleurs, y compris des franciscains, qui se mettent à prêcher en chair de manière évangélique, protestante, si vous voulez, hein, et qui ensuite vont avoir des ennuis, évidemment. C'est-à-dire qu'ils vont en général perdre leur place, soit s'enfuir, soit devoir passer devant le tribunal ecclésiastique puis civil. Donc il peut y avoir dans des chaires officielles une prédication évangélique, parfois protégée par des autorités politiques. Je pense à Marguerite de Navarre, qui protège des prédicateurs tout à fait en place hein, contre les foudres de la Sorbonne et même, dans certains cas, contre des mesures policières. À partir des années 1540, surtout sous Henri II, à partir de 1547, quand la répression s'accentue de plus en plus, la chambre ardente, etc., les prédications ne sont plus officielles, elles sont clandestines ou semi-clandestines. La prédication, soit par d'anciens prêtres, d'anciens moines prédicateurs, soit par des laïcs cultivés, suffisamment cultivés, qui ont des grades universitaires, qui sont avocats, etc., notaires, maîtres d'école, imprimeurs, des gens qui sont capables de prêcher auprès des autres, mais qui n'ont pas encore de statut, si vous voulez, bien défini par rapport à leur communauté, sinon de répondre à cette soif de parole de Dieu. Alors, les choses vont s'institutionnaliser progressivement. En particulier, ces communautés naissantes et un peu sauvages vont se tourner vers Genève pour demander des directives doctrinales, des directives de discipline. Comment s'organiser? Calvin va être très clair. Calvin dira vous prêchez comme vous pouvez avec les gens que vous avez, mais il y a véritablement une église au sens plénier de ce texte, c'est-à-dire ne peuvent être véritablement célébrés les sacrements, notamment le baptême et la scène, hein, l'Eucharistie et la scène, que s'il y a une église instituée, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement qu'il y ait un pasteur, mais ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait un prédicateur, non. Il faut qu'il y ait des anciens, il faut qu'il y ait une discipline ecclésiastique, il faut que ce ne soit pas des phénomènes anarchiques, où il faut qu'il y ait un contrôle par ce qu'on appelle les anciens dans les églises réformées. Et ces églises elles-mêmes vont être en réseau, hein, vont échanger des nouvelles, s'organiser, hein, progressivement, à partir de la fin des années 50, un système synodal. Voilà. Reconnaissance réciproque de ces communautés structurées hein, et qui ne sont pas livrés simplement à la fantaisie d'un prédicateur itinérant. Vous voyez un peu l'idée de Calvin. Hein. C'est pas seulement une mise en ordre doctrinale, théologique, c'est aussi une mise en ordre, je dirais, humaine, sociale, sociologique. Hein. Et il s'agit que l'évangile se structure, la vie des communautés se structure de manière suffisamment forte, nette, de façon à pouvoir être avouable. C'est-à-dire à se présenter ensuite un jour, c'était l'espoir de Calvin, aux autorités, dans l'idée qu'un jour le royaume lui-même, à partir du haut, finirait par se convertir à la réforme protestante. Voilà pour ce qui est du sermon, et vous voyez son lien avec l'organisation des communautés, ses problèmes. Alors, ces pasteurs, comment est-ce qu'on va les trouver dans ces... Ben, très souvent, ces communautés vont dire à Genève, ben, envoyez-nous des pasteurs. Nous n'en avons pas. Nous avons simplement une prédication un peu spontanée, un peu sauvage. Envoyez-nous une pasteur. Et Genève va faire ce qu'elle pourra, parce qu'à Genève, il n'y a pas encore de faculté de théologie. Hein. La faculté de théologie, ce sont les sermons des prédicateurs de Genève, notamment de Calvin, pas seulement. Hein. Alors, c'était de la formation continue. En assistant aux sermons de Calvin, mais aussi à ses cours d'exégèse biblique, les gens acquéraient une culture nouvelle, sur le plan théologique et sur le plan de la prédication, qu'ensuite ils allaient pouvoir exporter dans ces communautés qui réclamaient des pasteurs. Mais l'évangile est passé par d'autres voies que cette prédication, donc, qui s'organise progressivement. Il est passé, je l'ai dit, par le chant, tout ce qu'on entend, et les gens chantaient énormément. Ils ont toujours énormément chanté. Aujourd'hui, les Français ne chantent plus beaucoup, encore que si il y a certaines émissions de télé, le karaoké, etc. Je vois qu'il y a des formes de... Mais oui, des formes médiatiques aujourd'hui qui permettent aux gens de se réapproprier le chant, alors que l'école primaire ne transmet plus, presque plus, pas beaucoup, de culture du chant. Alors, les gens chantaient. On chantait au Moyen-Âge, on a toujours chanté dans toutes les civilisations, je pense. Ils chantaient. Ils chantaient des chants religieux. Mais au Moyen-Âge, le chant religieux des fidèles ne fait pas partie de la liturgie. Les fidèles ne chantent pas. Ils assistent à la messe, et vous savez qu'ils assistent à la messe, et ils ne voient pas la célébration de la messe. Vous savez que c'est le phénomène, je reviens au problème médiatique. La messe, on l'entend et on ne la voit pas. Puisque, en tout cas, dans les grandes églises, surtout les églises collégiales, bien sûr, les églises cathédrales, la messe est dite dans le cœur, la grande messe, je parle de la grande messe, là, hein, pas des messes sur les autels particuliers, mais de la grande messe dominicale, donc et des grandes fêtes. Elle est dite dans un cœur qui est entièrement fermé, comme aujourd'hui dans les églises orthodoxes, d'ailleurs. Donc les fidèles entendent du latin, pas très bien, et ils sont avertis par des cloches, par des sonneries, par différents instruments, et par certains va-et-vient des servants, qu'on est arrivé à tel moment de la messe qu'ils ne voient pas. Mais ils entendent. Donc le chant des fidèles ne fait pas partie de la liturgie. La liturgie est entièrement en latin, y compris les chants, qui n'ont lieu que si le desservant sait, d'abord chante la messe, ce qui n'est pas évident, il faut que ce soit une messe chantée, elle ne peut pas l'être toujours, parce que pour ça, il faut savoir le grégorien, et très très peu de desservants savent le grégorien. Deuxièmement, il y a véritablement de chant que s'il y a beaucoup de desservants, c'est-à-dire s'il y a des chanoines ou si on est dans une cathédrale, ou bien sûr dans un monastère, où la liturgie est chantée et en latin. Donc les gens ne chantaient pas, ne participaient pas à la liturgie par le chant. Ils y participaient autrement. Ça ne veut pas dire qu'ils en étaient exclus, pas du tout, mais ils y participaient autrement. Je crois que le mieux pour se représenter cela, c'est d'aller aujourd'hui dans une église orthodoxe, la plus traditionnelle possible, et de voir ce qui se passe. Et là, on comprend un peu ce qui se passait dans une paroisse latine au Moyen-Âge. Un peu, c'est pas la même chose, mais c'est analogue. Mais il y avait quand même des chants religieux, y compris en langue française, en langue en allemand, en italien, etc. Ces chants religieux étaient ceux du peuple et ils s'ajoutaient à la liturgie à l'occasion de processions ou de pèlerinages ou après la messe, à la fin de la messe, à l'occasion de telles grandes fêtes. Des chants religieux en langue vulgaire. Voilà. Ce répertoire, nous le connaissons, hein, il est largement conservé, mais ça ne fait pas partie de la liturgie. Alors la réforme protestante a consisté, au contraire, à introduire le chant des fidèles comme élément constitutif de la liturgie divine. Le chant des fidèles, c'est la forme que prend la prière collective dans la liturgie. La prière de tous les fidèles, elle est exprimée collectivement par toutes les voix des fidèles. Toutes les voix, attention, ça veut dire femmes, et enfant comme homme. N'oublie pas que dans la liturgie traditionnelle, on n'entend que des voix masculines. Dans les églises très sophistiquées, là où il y a des chorales, dans les églises cathédrales, certaines églises collégiales, là où il y a des chorales, ce sont que des chorales de garçons. Hein. Et c'est pour de la musique polyphonique, de toute façon, aux paroles de laquelle personne ne comprend rien, puisque par définition, plusieurs voix sont chantées ensemble par des garçons de tous âges qui permettent d'avoir des voix différentes dans cette polyphonie médiévale, mais quand même qui était réservée aux grandes villes hein, et aux grandes églises. Donc, la réforme protestante est une véritable révolution du culte chrétien, peut-être par retour aux origines, bien sûr, il y a des idées derrière, inspirées par le Nouveau Testament, et c'est ce qu'a voulu Luther, et puis ensuite Calvin. Hein. C'est un chant collectif aussi où les voix masculines, féminines et d'enfants chantent ensemble, ce qui suppose un chant à l'unisson, donc pas de chant polyphonique. Ça suppose à l'unisson, quand il y a des voix masculines, des voix féminines, des voix d'enfants, qu'il va y avoir une amplitude des notes suffisamment resserrée pour que tout le monde, à son octave, puisse chanter la même chose. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire monophonie, donc pas de polyphonie. Ça veut dire aussi musique, entre guillemets, hein, populaire, à forme populaire, pour que tout le monde puisse facilement retenir ses chants. C'est Luther hein, qui a inventé tout cela. Ensuite, pour les psaumes, c'est élaboré à Strasbourg en 1522, 23, 24, 25. C'est, à Strasbourg, on va privilégier les psaumes en allemand, mis en musique. Pour que ce chant soit facile à retenir, il faut que les mélodies elles-mêmes soient assez simples, premièrement. Deuxièmement, assez simples, ça veut dire correspondre à un répertoire assimilable par les fidèles. Ça ne veut pas dire un répertoire nul, hein, musicalement. C'est souvent très beau et même assez sophistiqué. Mais ça reste simple mélodiquement. Ça veut dire aussi, pour que ça soit facile à retenir, qu'on va avoir affaire essentiellement à une musique syllabique. C'est-à-dire une note, une syllabe, une note, une syllabe, une note, une syllabe, avec seulement deux notes, blanche ou noire. Ces principes étant posés, vous avez le choral luthérien et le cantique protestant en général, chorales luthériens, qui sont souvent d'ailleurs sous la plume de Luther, des adaptations des psaumes. À Strasbourg, carrément des traductions des psaumes en allemand, hein, et une traduction suffisamment poétique et rythmée de telle façon qu'elle puisse être mise en musique facilement sur ces mélodies. C'est le modèle que Calvin va découvrir à Strasbourg, justement, en 1539, et pour lequel, alors là, c'est une des images, aucun psaume, c'est l'image qui est en bas à gauche. 1539, Calvin a découvert ses mélodies. Il a alors en charge de la paroisse française, francophone de Strasbourg. Il écrit des paroles de psaumes, il traduit des psaumes en français, sur ces mélodies germaniques, qui sont strasbourgeoises d'ailleurs, qu'il découvre sur place. Et il a découvert les psaumes paraphrasés sous forme de poèmes, de chansons par Clément Marot en français. Et il prend ce qui est disponible de Marot à ce moment-là, ce qu'il a sous la main. Non, on remonte un peu, et c'est à gauche. La page la plus blanche. La plus blanche. Voilà. Voilà, ça peut être ouvert. Les psaumes. Bon, aucun psaume. Ils sont en nombre limité et Calvin va charger Clément Marot. Calvin a écrit quelques-uns de ses psaumes, mais il sait qu'il n'est pas très bon poète, etc. Et il va demander à Clément Marot de poursuivre son œuvre et d'achever le psaume. Marot n'ira que jusqu'à 49 psaumes. Bon, mais ça sera achevé par Théodore de Bèze en 1562. Alors, ce chant, on trouve donc les notes de musique. Voilà, bon, oui. Bon. C'est imprimé de la façon suivante. Vous avez les notes de musique. Alors, imprimer de la musique, ce n'était pas évident. Hein. C'est une invention récente. À Paris, ça apparaît seulement au début des années 1520, l'impression des notes, hein, avec les paroles dessous. Parce que ça suppose le mélange de deux techniques différentes. Ça suppose la technique de la typographie, qui est l'impression avec des caractères typographiques. C'est-à-dire à chaque signe, mettons une virgule ou une lettre, consonne ou correspond à un petit, vous savez, un petit élément métal. Hein. On les met les uns à côté des autres, dans une forme, et ça permet d'imprimer du texte. Bon, c'est les caractères mobiles, la grande invention de Gutenberg. Mais pour les notes, ça ne peut pas être ça, évidemment. Pour les notes, c'est des bois. Ce qu'on appelle des bois, c'est-à-dire que c'est de la xylographie. Donc c'est très complexe comme méthode pour combiner les notes avec les paroles dessous. Ça n'a été inventé, ça, qu'au début des... À Paris, je veux dire, pas inventé à Paris, c'est à Venise qu'on l'a inventé. Mais ça ne vient à Paris qu'au début des années 1520. Donc c'est une technique médiatique de pointe à l'époque. Alors, c'est fait de telle façon qu'on a donc les notes, blanches ou noires, et dessous, chaque note, la syllabe qu'on doit chanter sur cette note. Bon. On ne met pas encore les différentes strophes qui vont chanter sur la même mélodie sous la même ligne de notes. Ça sera inventé qu'au 18e et surtout au 19e siècle. Ils n'ont pas eu l'idée avant. Donc on a les notes, la première strophe, et ensuite les autres strophes sont imprimées, mais ils n'ont pas les notes au-dessus. Oui, bon. Il fallait donc bien mémoriser la première strophe. Et ça, c'est en général le maître d'école qui va faire ça à Genève. C'est souvent un maître d'école, et dans les paroisses réformées, dans les communautés réformées du royaume, et ailleurs en Europe, c'est souvent le maître d'école qui va apprendre, il va servir de chantre. Le dimanche matin, on réunit les enfants, ça passait comme ça. On réunissait les enfants avant le culte, ils apprenaient par cœur sous la conduite du chantre, ensuite les adultes arrivaient et on répétait. Comme il y a idéalement une mélodie différente pour chaque psaume, en fait il n'y a pas eu 150 mélodies pour les 150 psaumes, mais on n'était pas loin, on était à 120 et quelques à Genève en 1562-63. Il est facile de mémoriser les mélodies puisque chaque mélodie s'identifie à un psaume, se confond, chaque type de musique accompagne un psaume et normalement pas 3 ou 4 psaumes différents. Donc, procédé de mémorisation aisé à retenir. Et comme on chantait ces psaumes, les 150 psaumes, sur toute l'année, on les chante à Genève, puis ensuite dans les églises réformées, on les chantait deux fois toute l'année, les 150, donc on chantait 300 psaumes par an. Donc, les gens, au bout de 2 ou 3 ans, ils avaient compris. Au bout de 2 ou 3 ans, ils avaient déjà chanté 4 ou 5 ou 6 fois le même psaume. Donc, au bout de 2 ou 3 ans, ils savaient leur psaume. Et puis, je vous l'ai dit, avec l'imprimerie, on a les moyens désormais, même les gens qui ont peu de moyens, d'acheter un psautier, notes et musique. Psautiers qui sont imprimés à bas coût, c'est-à-dire sur du papier de moindre qualité, avec des signes typographiques qui ne sont pas luxueux, des livres de petit format, etc., etc. Donc pas très cher, tout ça. Et donc, les gens pouvaient en gros se les offrir. Alors, si vous ne pouvez pas se l'offrir dans chaque famille, chacun n'a pas un psautier, évidemment. Il y a un psautier en général par famille. Mais vous voyez, bon, ça circule, etc. Bon. Donc, ça, c'est une véritable révolution culturelle, musicale, poétique, parce que ces psaumes, c'est magnifique dans la traduction de Marot et de Bèze, mais aussi religieuse. Ce sont les fidèles qui, désormais, font ce que faisaient depuis le 3e, 4e siècle les moines, et uniquement les moines, ou dans les églises collégiales, les chanoines. Ce sont les fidèles, tous les fidèles, même les plus incultes, et les femmes, et les enfants, qui chantent la liturgie. Parce que les psaumes, c'est la liturgie de l'Église depuis l'origine du christianisme. Et avant, dans le judaïsme ancien. Donc, c'est une véritable révolution culturelle, mais aussi sociologique, qui a énormément choqué, d'ailleurs, à l'époque, les catholiques. Comment des femmes osent chanter la liturgie divine à l'Église? Des laïcs, et pire, des femmes. Les enfants, on était habitués, parce qu'ils chantaient le latin, la polyphonie, pour les enfants, des chorales, des grandes chorales. Vous voyez, on a très souvent cette remarque au XVIe siècle. Alors, la poésie. Un autre exemple, la poésie chantée, je veux dire, c'est la technique du contrafactum. Là, j'aurais pu passer un autre exemple, mais bon, tant pis, on renonce aux images. La réforme protestante va se diffuser par la chanson. Cette fois-ci, la chanson, non pas à l'église. Encore que les psaumes se chantent aussi à la maison, nous dit Calvin, en chemin, dans les activités quotidiennes. Mais là, il s'agit de la chanson, c'est-à-dire de ce qui se chante pour ça, quand on s'amuse, si vous voulez. Ça existait depuis le Moyen-Âge. Existent des paroles d'un poème, plus ou moins sérieux, par exemple amoureux, courtois, un peu idéaliste peut-être. Et puis, on a une mélodie, donc, correspondant à cette chanson qui est connue de tous. Eh bien, on va écrire de nouvelles paroles sur cette chanson, souvent en gardant les rimes, d'ailleurs, le système des rimes, hein, sans transformer tout, de façon à ce qu'on reconnaisse facilement l'ancienne chanson, par la mélodie, bien sûr, mais aussi parfois par les rimes elles-mêmes. Mais les nouvelles paroles, elles vont avoir un sens complètement différent. Par exemple, d'un chant religieux traditionnel, on va faire un chant satirique, politique, ou de contestation sociale, chez des ouvriers, dans des corporations, etc. Et la réforme protestante s'est emparée de ce phénomène, ce qu'on appelle le contrafactum, et elle va systématiquement sur des chansons qui circulaient, des chansons populaires, souvent monodique, c'est-à-dire qu'il n'était pas chanté à plusieurs voix, mais qu'on pouvait fredonner comme ça, tout seul. Et que tout le monde pouvait entonner à l'unisson aussi. Elle va s'emparer de ces chansons, souvent des chansons d'amour, hein. Des chansons d'actualité ou des chansons d'amour. D'amour, un peu facile, hein, « Je vais avec Marion au bois », ce genre de choses. Ou des chansons d'actualité, « Le roi revenant de la guerre », vous voyez, après une guerre et une victoire du roi de France. S'empare de ces chansons et met des paroles religieuses. Des paroles religieuses qui sont souvent des paroles de propagande religieuse protestante, pour la réforme protestante, réaffirmant les grands principes, la justification par la foi, la foi comme assurance du salut, la place centrale des Écritures saintes, etc., etc. Dans des contrafactos, 1546, on a tout un recueil, la chrétienne réjouissance de Storck de Beaulieu, imprimé à Genève. C'est absolument magnifique, hein, parce que il y a des centaines de chansons, peut-être 200 là-dedans. Il y a celle sur laquelle des mélodies préexistaient, et Storck de Beaulieu, qui était pasteur, je crois, dans le pays de Neuchâtel, propose de nouvelles paroles, et ça servait à la propagande, à la réjouissance personnelle, collective, mais aussi à la propagande pour la réforme. Mais aussi, il invente des paroles nouvelles sur des mélodies nouvelles, alors. C'est la deuxième partie du recueil. Donc le chant a eu une importance énorme dans la diffusion de la réforme. À l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église, avec les psaumes ou avec ces chansons, ces recueils de chansons religieuses, mais sur des mélodies carrément profanes. Enfin, il y a la littérature. J'entends par littérature des formes sophistiquées de l'écriture, et notamment en prose ou en poésie, qui ne sont pas liées au sermon, ça on l'a vu, et qui ne sont pas liées à la musique, on l'a vu aussi. Il y a la littérature. Il y a une véritable conversion des genres littéraires. Dans les années 1520-1540, genres littéraires en prose ou en poésie qu'on pratiquait avant la réforme protestante, conversion au service de la réforme protestante, je pense en particulier à la poésie, et notamment à toute une partie de l'œuvre de Clément Marot, que Franck connaît beaucoup mieux que moi. Et on voit bien d'ailleurs comment Clément Marot est passé de pratiques poétiques, y compris religieuses, et le chant royal en l'honneur de la Vierge Marie, dans lequel il a excellé. C'est magnifique, ces chants royaux, ces grandes ballades, enfin chants royaux pour la Vierge Marie. Comment il est passé à des poèmes évangéliques dans un style beaucoup plus simple. Hein, Clément Marot, qui a réinventé la poésie française à partir d'une élégante simplicité, c'est lui qui a créé ça, qui me semble évidente aujourd'hui, hein, que la poésie peut relever d'une élégante simplicité et presque avoir une allure pas populaire, mais facile. C'est lui qui a inventé ça, hein, cette espèce de facilité apparente de la poésie comme langage qui s'adresse immédiatement à tous et dont les idées, les mots sont profonds parce qu'ils sont transparents. Ça, c'est Marot. Eh bien, il a mis cet art, ce nouvel art poétique qu'il avait inventé, au service de ses idées religieuses. Je ne citerai pas de poèmes ici, mais vous pouvez aller les voir, notamment dans l'édition de Franck, dans la collection Poésie Gallimard. Vous savez, chez la collection Poésie Gallimard, voilà, les poésies de Clément Marot, c'est l'Adolescence Clémentine, édité par Franck Lestringant. Mais il n'y a pas que Marot, il y a de toutes sortes de poètes autour de lui qui ont fait la même chose, qui ont converti les formes poétiques traditionnelles, poèmes courts, chansons. Marguerite Navarre écrit des chansons, de très belles chansons évangéliques qui sont plutôt mystiques dans son cas, et d'autres formes et d'autres genres poétiques encore au service de la nouvelle, de la foi évangélique renouvelée, disons. Il n'y a pas que la conversion des formes poétiques traditionnelles, notamment de la chanson. Il y a aussi la concurrence avec les nouvelles formes poétiques. Là, c'est la révolution poétique de Ronsard, de Dubélé, qui va révolutionner la poésie française jusqu'au XIXe siècle, en prenant l'imitation des Grecs, des Latins et de la haute poésie italienne, du pétrarchisme notamment. Donc, qui abandonne les traditions poétiques françaises, traditionnelles, nationales, hein, qu'on cultivait depuis 3-4 siècles et plus, au profit de l'imitation de poèmes considérés comme classiques, grec, latin, italien, mais composés dans d'autres langues, et dont on va transfuser dans la langue française, et parfois dans des formes poétiques françaises, à inventer la substance, les références, les styles, tout, pour les faire revivre. Et c'est toute la poésie moderne qui naît alors entre 1549 et 1550. Défense et illustration de la langue française, Dubélé, Ode de Ronsard, puis premier recueil de Dubélé. Enfin, puis en même temps. Alors, la réforme protestante ça a été confrontée à cette nouvelle poésie qui va s'imposer, hein, dans la culture française. C'est la nôtre, en fait. Nous en sommes les héritiers. Va être confrontée à ce phénomène. Et Certains humanistes protestants, je pense à Théodore de Bèze, c'est lui qui va mettre ça en place dès 1550, vont répliquer sur le même terrain de l'imitation. Puisque pour la Pléiade, il s'agit d'imiter les Grecs, les Latins, considérés comme classiques, et certains Italiens. Et Théodore de Bèze va dire, oui, nous allons créer une nouvelle poésie. Mais ce que nous allons imiter, ce ne sera pas les poètes grecs ou latins qui sont des païens. Ce que nous allons imiter, c'est le corpus de la Bible. Et notamment les psaumes, mais pas seulement. C'est la même culture humaniste. Hein. C'est le principe de l'imitation systématique d'un corpus composé à l'origine dans une autre langue. Sauf que là, c'est la Bible, au départ en hébreu et en grec. Et maintenant, nous avons accès au texte. Théodore Bèze était un très grand spécialiste de la langue grecque. C'est un humaniste, hein, et un très grand spécialiste de la langue grecque. Et les poéticiens protestants ont dit, nous avons accès maintenant à ces textes en hébreu et en grec, grâce à l'humanisme de la Renaissance. En hébreu et en grec. Et nous pouvons les traduire en français. Et ce qui est traduit en français de manière exacte, cette Bible traduite en français de manière exacte, nous pouvons y trouver des modèles, des sources d'idées et de styles pour une nouvelle poésie, mais qui sera alors évangélique. Alors, là, se mettent en place à peu près dans les mêmes années, 1550, deux modèles, je dirais, convergents par les principes, l'imitation, deux modèles étrangers au départ à la langue française, mais divergents par, je dirais, le statut spirituel et théologique et le leur. D'un côté, des poésies plutôt profanes, hein, voire païennes, gréco-latines, ou pour la poésie italienne et pétrarchisme, l'amour, et de l'autre côté, les corpus bibliques, très très divers, hein, qui comprennent, y compris sur le plan poétique, des choses très diverses qu'on peut imiter, transposer en français. Et donc, on va avoir cette invention d'une qu'on appelle la poétique réformée à partir de 1550. Alors, elle va être très productive, mais elle va s'essouffler elle-même. Et finalement, les très grands poètes réformés, militants comme Agrippa d'Aubigné, dont on a ici le spécialiste avec Franck, ou moins militants comme par exemple Dubartas, hein, Salus Dubartas, qui lui peut être lu par les catholiques, est œcuménique en ce sens-là, dans sa semaine, qui paraphrase de manière encyclopédique le récit de la création dans la Genèse. Ces poètes protestants de la génération suivante, là c'est la génération de 1575, ces poètes-là, eux, vont réconcilier la poétique de la Pléiade, une poétique savante, très sophistiquée, avec l'inspiration biblique. Pour eux, il n'y aura pas forcément opposition. Hein. Ils vont dépasser, si vous voulez, la concurrence et l'opposition de la poétique de la Pléiade et de la poétique réformée. Et ça donnera lieu à cette grande poésie protestante, militante ou non militante, militante avec Aubigné, mais encore qu'Aubigné n'est pas toujours militant, il est aussi pétrarchiste dans Le Printemps, ou non militante, chrétienne, biblique. Hein. Mais j'ai mentionné deux noms, il y en a énormément d'autres, et encore pas mal de poètes à découvrir, hein, que nous essayons de faire découvrir, qui sont pratiquement inconnus à nos étudiants en Sorbonne. Alors voilà, cette poésie, elle pouvait être à son tour chantée. C'est le cas des psaumes de Marot, c'est le cas de beaucoup d'odes spirituelles protestantes du XVIe siècle, de poésies spirituelles qui sont faites pour être chantées. Elles pouvaient être aussi simplement lues et elles s'inscrivent alors dans la nouvelle culture de l'imprimé qui a elle-même révolutionné la littérature de la Renaissance. Voilà, j'ai exploré devant vous ces quelques voies.
On voit Dubartas. Là.
Voilà, Dubartas, ça c'est le frontispice à la page de titre, admirablement gravé. Là, je ne peux pas voir la date d'édition. Qui montre justement, c'est l'idée de la création, là c'est Adam et Ève, vous les avez reconnus évidemment, dans ce grand poème de la semaine de Dubartas, les œuvres, là c'est les œuvres complètes, hein.
Magnifique.
Pas seulement, magnifique frontispice, et vous voyez comme ce frontispice annonce quelque chose du poème lui-même, qui vient de la Pléiade, hein. C'est que la poésie doit avoir des formes séductrices, autant que chrétienne et biblique, séductrice, c'est cette synthèse dont je vous parlais tout à l'heure, sur la poétique de la Pléiade, la poésie comme séduction, hein. Comme beauté, comme lumière, comme éclat, hein. Et en même temps le fondement biblique, une matière biblique et un esprit biblique. Voilà, c'est la magnifique synthèse de cette page de titre, hein, avec ces beaux corps. Je ne sais pas s'il s'inspire de Cranach ou de quels sont les modèles qu'il y a là derrière. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et naturellement nous pouvons maintenant discuter de tout cela.
Merci infiniment, Olivier Millet, pour cette plongée dans le Moyen-Âge chrétien, avec ses beaux rappels hein, de ce qu'était la messe, ou plutôt de ce qu'elle n'était pas, puisqu'on a aujourd'hui une image de la messe très 19e-miste, au fond, hein, avec le grand travail des séminaires et de la formation des prêtres, après la contre-réforme, justement, hein, et la mise en place d'une véritable éducation de l'élite catholique. Et puis, pour le beau rappel aussi de ce qu'est la prédication, j'ai envie de vous interroger en vous écoutant sur la prédication des franciscains et des dominicains. Je pense immédiatement aux vaudois, qui ont été aussi des grands prédicateurs, de tête utilisée d'ailleurs par l'Inquisition pour lutter contre les cathares. Hein, vous me corrigerez si c'est une erreur, mais j'aimerais vous entendre aussi sur cette question de la prédication vaudoise. Et puis, merci aussi pour cette découverte de la multiplicité des médias réformés. Et autre question, là, avant de vous laisser la parole, est-ce qu'on sait, alors on sait quelle a été l'importance des sermons imprimés en France, après les années 1550, hein, vous l'avez bien dit, 1560 surtout, on le sait en Allemagne, hein, c'est plusieurs centaines de milliers hein, de sermons imprimés qui sont diffusés dans l'Empire à cette époque. Mais est-ce qu'on... Vous avez parlé évidemment aussi de l'importance du chant, du psautier. Est-ce qu'on sait quelle a été l'importance de la poésie protestante? Quelle a été sa réception, plus exactement?
Alors, il faut distinguer évidemment des périodes... Je crois, parce que protestante et protestant, ce qui est identifié comme protestant à un moment donné. Ce phénomène ne s'installe vraiment sur la confessionnalisation, sur le plan sociologique et culturel, ne s'installe que progressivement au cours des années 1550-1560. Avant, Clément Marot, quand il traduit ses psaumes, il ne fait pas œuvre protestante, il fait œuvre évangélique. Et il adresse cela à... y compris sous forme de manuscrits, puisqu'en par exemple, on a un manuscrit des psaumes de Marot de 1541 qu'il a remis à Charles Quint. Il est à Vienne, à la Bibliothèque nationale de Vienne. Je suis allé le voir il y a 2 ans sur place. Un magnifique manuscrit. Charles Quint, il est catholique. Voilà. Donc, les psaumes de Marot ne sont pas confessionnels. Ils auraient dû être le bien commun poétique de tous les Français. Simplement, à partir du moment où les réformés vont utiliser ces psaumes de Marot dans leur culte, et plus précisément, on peut le dater de façon très très précise tout cela, à partir de 1562-63, je veux dire pourquoi après, ça va apparaître aux catholiques, dans la mesure où ils s'opposent aux protestants, comme ces psaumes vont apparaître comme quelque chose de protestant. Alors, 62-63, c'est la bascule, pourquoi ? Théodore de Bèze vient en France. C'est le colloque de Poissy. La reine-mère, Catherine de Médicis, espère un accord théologique entre les catholiques et les protestants pour empêcher une guerre civile. Théodore de Bèze est invité à participer à ce colloque. Il a un sauf-conduit et il vient d'achever son psautier. Ça y est, on a les 150 psaumes de Marot et de Bèze prêts à être chantés. Et ça n'est pas encore protestant. Ou pas seulement protestants. Les catholiques, l'Église, peuvent les chanter. Et Clément et Théodore de Bèze obtient des autorités, c'est-à-dire de la reine-mère, le droit de faire imprimer ce psautier. C'est le droit, c'est le privilège, c'est un privilège, peu importe. Dans tout le royaume. Et l'idée de Théodore de Bèze, c'est que ça soit tellement diffusé qu'aucun livre n'a été imprimé en France à autant d'exemplaires que ce qu'il va faire imprimer avec ses psaumes. Il y a eu 60 000, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires imprimés. C'était tellement important à l'époque, n'oubliez pas qu'un livre à l'époque est imprimé maximum, sauf exception, 1500-1800 exemplaires par tirage. C'est tellement important qu'il a fallu 19 imprimeurs dans tout le royaume pour imprimer ces dizaines de milliers d'exemplaires. Et l'idée de Bèze, c'est qu'on va diffuser ça pour tous les réformés du royaume, mais aussi pour tous les catholiques qui veulent bien chanter les psaumes en français. Donc c'est pas encore, et c'est la reine-mère catholique qui donne le privilège, donc c'est pas encore estampillé comme protestant. Puis éclate la guerre civile, 62-63, et là c'est terminé. Désormais, les psaumes seront, ces psaumes-là, ce psautier-là, sera l'apanage des réformés. Ça s'est joué en quelques mois. Donc voilà une première réponse Ensuite, il y a des poésies protestantes, dont on voit bien que le contexte ou l'infrastructure est protestante, mais le texte ne l'est pas explicitement. Un catholique peut parfaitement dire ses poèmes ou chanter ses chansons, se les approprier. Je l'ai montré récemment, même pour les chefs-d'œuvre de la poésie protestante du XVIe siècle, les octonaires de la Vanité du Monde, d'Antoine de la Roche-Chandieu. J'ai montré que l'infrastructure, il faut le démontrer, je crois l'avoir démontré, est bien réformée, mais que rien dans le texte ne fait de cette poésie une poésie confessionnelle, protestante, réformée. Rien. Ça reste une poésie spirituelle de détachement du monde. Et ça, un catholique peut parfaitement y participer. La dire et les chanter, parce que ça a été mis en musique aussi. Donc, voyez la réponse. Ensuite, tout dépend de ce que les pasteurs veulent faire. Ils peuvent vouloir faire une poésie confessionnelle, c'est-à-dire qu'ils confessent la foi évangélique au sens confessionnel, protestant. Ils peuvent vouloir faire une poésie chrétienne, qui sera chantable, lisible, y compris par les catholiques. Ils peuvent faire aussi une poésie morale qui est universelle, qui n'est même pas chrétienne en soi. Voyez, bon, ça dépend. En réalité, la limite vient d'ailleurs. Elle vient du fait que lorsqu'un protestant, en général, classé comme protestant, imprime, il passe souvent par un circuit d'imprimeurs protestants, et les imprimeurs protestants, dans la France de l'Ancien Régime, jusqu'au XVIIIe siècle, sous l'édit de Nantes en tout cas, ont des clients essentiellement protestants. C'est-à-dire qu'il y a lieu une séparation des publics par les circuits des imprimeurs. Un catholique n'ira pas acheter des livres chez un imprimeur, chez un libraire protestant, qui est lui-même alimenté par des imprimeurs protestants. Et il y en a pas mal dans le royaume sous l'édit de Nantes. Voilà. Et c'est déjà comme ça au XVIe siècle. Petit à petit, se créent des démarcations socio-culturelles. Non, ça ne joue pas pour toute la littérature, nous sommes d'accord, et heureusement. Et les auteurs protestants peuvent parfaitement donner des œuvres protestantes, des œuvres non protestantes, à des imprimeurs catholiques. Nous sommes d'accord aussi, bien sûr. C'est-à-dire que tous les cas de figure sont possibles.
Merci. Est-ce que vous avez des questions, des faits que vous voudriez voir complétés? Oui.
C'est lié, évidemment, c'est lié à la création des chaires royales par François Ier en 1530, et il y a immédiatement une chaire d'hébreu, puis il y en aura deux même, et puis il y a plusieurs hébraïsants qui tournent autour. C'est que l'hébreu vient à la mode, mais ce n'est pas une mode au sens, si vous voulez, vestimentaire, c'est un courant très profond de la Renaissance humaniste, le retour aux sources, donc l'hébreu et le grec pour le Nouveau Testament. Bon. Et donc François Ier sanctionne ça, il n'y a pas de chaire d'hébreu à la Sorbonne, mais il y en a une parmi les lecteurs royaux, il y a deux professeurs d'hébreu, oui. Or, la jeunesse lettrée va en fou le cours d'hébreu, y compris Calvin, d'ailleurs, le jeune Calvin, il va. Bon, ce sont les Vatables, entre autres, puis Guy d'Acherieux, etc. Il y a un phénomène de mode, quand même. C'est ce qui est bien intellectuellement, si vous voulez, c'est d'apprendre le grec et l'hébreu dans ces années-là. Ensuite, en réalité, l'hébreu subsistera comme enseignement officiel, bien sûr, dans les chaires royales jusqu'à aujourd'hui, mais l'Église catholique va le réserver aux savants et l'abandonner pour la formation, ne voudra jamais l'admettre pour la formation des prêtres. Alors que les protestants maintiendront jusqu'au bout la formation en grec, jusqu'à aujourd'hui, en grec et en hébreu. Donc, il va y avoir là un phénomène de mode quand même très très marqué pour ces années 30, des années très très marquées. Or, Clément Marot vit dans ce milieu. Il vit dans un milieu qui se tourne, qui vit du mythe, mais aussi de la pratique du retour aux sources. Alors lui, il n'a pas appris l'hébreu, mais il peut lire en latin le commentaire de Bucer sur les psaumes, qui intègre sur tous les psaumes, c'est un commentaire très très savant et très détaillé, en latin, tous les nouveaux savoirs qui viennent de l'hébreu sur les psaumes hébreux, notamment qui viennent des rabbins, de la tradition rabbinique. Donc, Clément Marot participe culturellement de ce mouvement, même s'il ne sait pas l'hébreu, et il peut y participer en se faisant aussi éclairer par des savants qui sont autour de lui, des humanistes, et qui savent l'hébreu. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Franck, qui a... évidemment, Marot ne sait pas l'hébreu, c'est clair. Mais il a accès en partie au nouveau savoir, comme nous pouvons avoir accès aujourd'hui. Quand nous.
Monsieur Genève, ils t'ont parlé avec Calvin. Enfin,
voilà.
Il est reçu par Calvin et il est aidé par.
Il a des théologies en tout cas, mais déjà à Paris dans les années 30. Et ensuite à Genève. Donc vous voyez, c'est une question de... C'est très pratique, c'est une question de fréquentation sociale des gens qui savent l'hébreu et qu'il peut rencontrer tous les jours.
Donc il y aura juste suivi une ou deux années de cours au Collège de France.
Oui. Je ne sais pas, nous ne savons pas si Clément Marot a suivi ces cours. Mais à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, on a le commentaire de Bucer, qui était très, très savant, lui, en hébreu.
Bucer, il a consulté.
Bucer, c'est le réformateur de Strasbourg. Et nous savons que ça a été très lu, son commentaire sur les psaumes, à Paris et en France.
Lui, il a consulté les commentaires des rabbins.
Ah oui, Bucer, il connaît bien. Bucer, c'est beaucoup mieux l'hébreu que Calvin, d'ailleurs. Et bien sûr qu'il peut lire. Alors, il n'est pas spécialiste de la littérature rabbinique, Bucer, mais il y avait des instruments qui avaient été mis au point pour les chrétiens, où on leur livrait beaucoup de choses, des savoirs en hébreu, et notamment sur le texte biblique, et notamment des commentaires rabbiniques. Ouais.
Ouais. Les marots circulaient.
En Italie, à Ferrare, qui est de la ville italienne où il y a la plus grosse communauté juive, hein, je rappelle, qui double au cours du XVIe siècle et où il y a les plus grands savants juifs du judaïsme mondial à l'époque. Et tout ça, parfaitement protégé par le prince, intégré dans la culture locale, ils ne sont pas dans un ghetto. Hein. Oui. Oui, ah oui. Alors, c'est la même chose que ce que j'ai dit pour la poésie. 1520-1540, le théâtre, les formes traditionnelles du théâtre sont converties, c'est-à-dire utilisées par les auteurs protestants au service de la réforme, de la propagande pour la réforme. Et ça se passe à Neuchâtel en 1533-34. On a des pièces de théâtre qui utilisent le théâtre traditionnel, hein, qui était très très vivant. Vous savez, à la fin du Moyen-Âge, énormément de gens assistaient à des pièces de théâtre. C'était un théâtre populaire au sens de communautaire. Tout le monde allait au théâtre. C'était pas des lieux théâtre au sens où des bâtiments construits pour ça. C'était chaque fois construit pour telle ou telle occasion, dans certaines salles disponibles pour des représentations. Hein. Et alors, ces formes traditionnelles de théâtre sont utilisées dans les années 1520-1540. Et ensuite, mise au point d'un théâtre protestant, Théodore de Bèze, l'Abraham sacrifié en 1550. Alors, lui, c'est un très grand savant. Qui est aussi un théâtre traditionnel, comique, satirique, de ce qu'on appelle le théâtre de moralité, bien sûr, mais qui s'inspire aussi de scènes du grand théâtre chrétien traditionnel des passions. Et là, c'est une scène biblique, donc ça figurait dans les grandes passions médiévales, où cet épisode du sacrifice d'Isaac. Et enfin, comme c'est un humaniste, quelqu'un de très savant et un spécialiste de littérature grecque, il va utiliser, c'est pas explicite chez lui, mais c'est quand même un humaniste, hein, la tragédie grecque qu'il connaît. Notamment Iphigénie, le mythe d'Iphigénie, hein, avec son grand dépouillement, cette manière d'aller à l'essentiel dans un langage simple, mais sur un thème biblique. Il va utiliser les modèles tragiques qu'il connaît très parfaitement pour créer ce nouveau théâtre protestant. Donc, c'est une extraordinaire synthèse des traditions du théâtre de la fin du Moyen-Âge et, je dirais, avec une hauteur de vue d'humaniste qui connaît, lui, le théâtre grec, qui est en train d'être redécouvrir en Occident. Et ça donne l'Abraham sacrifiant. Et tout un théâtre protestant qui va surtout se développer dans les années 50-60, puis ensuite, dans les années 70, un synode interdira, non pas le théâtre, mais les représentations au théâtre de scènes bibliques, par peur de profaner. Voilà. Et donc, ce sera le coup mis en France au théâtre protestant biblique, l'arrêt, exactement comme en Angleterre, ça aura lieu sous le Cromwell, hein, il y aura une interdiction. Voilà. Mais voilà, en France, donc, il n'y aura plus après de théâtre protestant, en tout cas à sujet biblique.
D'autres remarques ou questions ?
Oui, tu as évoqué l'usage satirique aussi, la poésie satirique, enfin, on retrouve déjà chez Marot.
Tout à fait.
Il y a toute une poésie satirique protestante,
bien sûr.
Bien
sûr, poésie de combat, poésie de propagande, mais aussi de combat, hein, et polémique et satirique.
Comme ça.
Voilà, d'une extraordinaire vivacité, et dans des formes soit plutôt populaires, de la chanson, c'est pas très bien attesté parce que tout souvent c'était imprimé mal, perdu, etc., soit sous des formes savantes, hein, par des gens qui ont appris, qui adhèrent à la poétique en réalité de Ronsard, hein, qui savent écrire comme lui, mais qui retournent l'arme ronsardienne contre Ronsard. Voilà, c'est la concurrence là des deux poétiques. Ouais.
Bien, écoutez, si vous avez d'autres questions, je vous suggère de venir voir Olivier Millet et de lui parler ici en privé, et de continuer ce débat sur ce sujet. Je vous annonce que la prochaine conférence de la librairie Jean Calvin, ce sera le 13 juin, en partenariat cette fois avec la paroisse de l'Oratoire, avec Alain Duhamel et Patrick Cabanel sur la question de la parole politique, cette fois des protestants. Vous savez qu'il y a eu des grands hommes d'État français, hein, d'origine, de culture protestante, même si Lionel Jospin n'a jamais voulu y être associé, il n'empêche qu'il a été d'une famille protestante. Je pense aussi à Michel Rocard, peut-être moins connu, Couve de Mourville, hein, le ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, était aussi protestant, André Philippe. Voilà. Donc il y a eu des grands hommes protestants. Et donc on abordera cette question avec Alain Duhamel et Patrick Cabanel le 13 juin, 20h je crois, à la paroisse de l'Oratoire. N'hésitez pas donc à nous rejoindre. Je vous rappelle qu'Olivier Millet donc, est l'auteur de nombreux ouvrages, ce très beau Calvin, avec cette thématique, cet angle hein, de l'atelier d'écriture qui est tout à fait remarquable, que je vous invite à découvrir. Cette découverte aussi personnelle de la Bible, hein, avec évidemment la question des genres de la Bible, la question de la culture biblique, dans quel environnement la Bible a été écrite, qu'est-ce qu'elle représente aussi dans l'art tout au long des siècles. Donc c'est une très belle introduction hein, à l'environnement biblique. Je signale, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais que Olivier Millet aussi est l'éditeur hein, de l'Institution de la religion chrétienne de 1541, publié chez Drault, formidable texte, hein, pour la première fois traduit en français, hein, puisque Calvin édité en 1536, en 1539, mais en latin. Il publie en 1541 donc son Institution de la religion chrétienne, et Olivier Millet a donné une étude critique remarquable de cette Institution de la religion chrétienne que vous pouvez trouver là-bas, qui pour moi a une saveur exceptionnelle qu'on ne retrouve pas hein, dans ce texte, son dernier texte de 1560, qui est amplifié, alourdi, à mon sens en tout cas, par la polémique, par les combats hein, qu'en rencontre Calvin. Là, on retrouve la langue fraîche, simple et vive de Jean Calvin. Et puis, Olivier Millet montre les influences, l'histoire hein, de cette pensée, de cette construction théologique, mais aussi de la construction de la langue de Calvin. C'est vous qui dites hein, que Calvin est des inventeurs de la langue française en prose. Hein.
Je dis même, c'est la formule que j'utilise dans mes conférences, je crois que Daniel l'a déjà entendu, je pense que Calvin, parce qu'on ne peut pas s'expliquer comment il a inventé cette langue française entièrement nouvelle. C'est-à-dire, il a inventé le fait que la langue française peut devenir capable d'exprimer, de discuter des idées de manière simple et claire. Ça n'existe pas avant lui. Et je dis, pour ça, il a un sens mystique de la langue française. C'est tout à fait étonnant chez un humaniste qui pensait écrire en latin au départ. Mais il a un sens mystique de la langue française. Il a trouvé, par une intuition profonde de ce qu'était la langue française et de ce qu'elle allait devenir, c'est-à-dire de son évolution, ce que nous appelons nous l'évolution de la langue. Il a compris comment il fallait écrire pour toucher un maximum de gens, tout en conférant à ce qu'il écrit cette dignité qui fait que cette clarté, mais aussi cette dignité qui fait que ça n'a pas pris un pli.
Ouais. Oui, et la rencontre entre Clément Barreau et Calvin.
Tout à fait.
Et puis merci donc à vous de nous avoir accueillis, de nous avoir écoutés. Merci à l'Église encore une fois. Oui. Je vous propose de remercier encore notre orateur.
Oui, merci.
Alors, d'accord.
Et ça, c'est contrairement à ça. C'est quelque chose de difficile.
Alors, dans les idées et dans le style. Ouais. Moi, c'est ce que vous savez, dès que vous êtes pasteur, moi, ce que j'apprécie, c'est que dans une prédication, il n'y a qu'une idée. Parce que là, je peux en profiter vraiment. C'est pas qu'il y ait 36 idées, c'est qu'il y en a une. Et alors après, on peut l'enterrer sous différents angles, etc. Et qui est clair de manière profonde, le texte biblique. Ça, c'est pas très difficile.
Merci en tout cas.
Franck Desfringants, c'est aussi un professeur de la Sorbonne. Et lui, c'est aussi un professeur de littérature française. C'est les deux titulaires des chaires de littérature française du 16e à la Sorbonne. Bon, Franck est à la retraite maintenant, là, voilà, une semaine.
Et il n'a pas tout oublié, donc c'est bien.
Non. Il a écrit deux énormes biographies sur Gilles.
Des gens passionnés,
c'est ça qu'on peut citer. Et Olivier Millet, quand il parle, il est aussi très accessible. C'est très simple. Il a l'art de.
Oui, parce que très vite, on
peut. Non, c'est tout à fait remarquable. On peut tomber dans la complexité, dans le détail inutile, qui alourdit le propos, mais lui, il n'est pas comme ça. C'est vraiment remarquable.
C'était très intéressant.
Bon, bah, tant mieux.
Très bien de proposer ça. Bon, évidemment, on n'est pas très nombreux.
Bon, bah, j'ai vu pire. J'ai vu bien pire. Non, franchement, ça allait encore.
Les fins d'année scolaires, des fois, c'est assez chargé.
Ouais. Les uns et les autres. Oui, bien sûr. Ouais.
Le temps aussi, je pense.
Le temps, la grande des grèves, peut-être aussi, il y avait des manifestations là.
Ah oui, il y avait des
ouais, donc ça peut-être aussi un peu bloqué les gens. Voilà. Non, mais on est une bonne trentaine, c'est bien.
Oui.
C'est bien.
Voilà. Bon, j'ai noté la date du 13 juin. C'est un mercredi. C'est
oui,
ça
alors là, Patrick Cabanel, c'est aussi un feu d'artifice. Alors là, c'est un peu. Pardon. C'est un peu différent de juillet, mais c'est un feu d'artifice. Bon, Franck.
Oui. Non, c'était bien.
Ouais. C'est intéressant.
Oui.
Intéressant. Bon, bah, toi, t'as rien appris, évidemment.
Oh!
Mais.
Olivier Millet connaît excellemment.
Ouais, connaît très bien. Ouais.
Ça me permet aussi de me rafraîchir les idées parce que j'ai travaillé sur le 19e ou sur le 20e.
Bah oui.
Tu vois, mon gîte, ça m'éloigne. Oui.
Bah là, les riz, ça te ramène au 16e.
Oui, je vais le faire.
Mais oui, je compte sur toi.
Oui.
Bah, je crois que là, t'as presque tout. Hein. Il faut que tu me dises une fois que t'as. Quand tu as travaillé sur les derniers tracks, ça peut être 120, ça peut être 130. Ne te stresse pas avec la taille. Ne te stresse pas avec ça.
Il faut que je respecte l'ordre ou pas, non?
Ah ben, tu aménages le livre.
C'est toi qui as fait les chapitres.
Non.
Non, mais les questions que tu m'avais posées, ça suivait un ordre, non?
Oui, ça suivait un ordre, mais toi, tu peux le réorganiser si tu veux.
Je sais pas.
En tout cas, garde à l'esprit simplement de raconter, quoi. Tu racontes.
Alors, ce qui est bête, c'est que je voulais te montrer hier soir. Enfin, j'aurais dû te montrer le bouquin.
Oui, tu m'as parlé
oui,
de ça.
Oui, c'est ce que j'ai dit dans le deuxième.
Écoute, on se reverra.
C'est bienvenu, tout d'un coup, ce matin, je me suis dit, bon Dieu, c'est ça.
Ouais. Mais on se reverra pour ça.
Oui, tu peux.
Et puis, de toute façon, il faudra qu'on se revoie pour le...
Tu reviens à la maison, on veut manger. Marie-Vonne est très contente qu'on aille à la pizzeria.
Génial.
Elle m'a dit que c'était une très bonne idée.
Bon, ben c'est très bien. C'est très bien. Oui, comme ça, elle n'est pas stressée.
Oui,
elle peut en profiter, c'est bien
oui,
mieux.
Oui. Elle est un peu fatiguée aussi.
Ah oui, aussi, bien sûr.
Et là, c'est très bien. C'est très vite.
C'était très bien.
Oui.
C'est très bien. Et il faudra qu'on se voit, de toute façon, pour les rires, pour les illustrations et tout ça.
Oui.
Pour mettre tout ça en place. Mais bon, voilà. Fais ton. Raconte ça, prends ton temps.
Cela dit, je peux le faire en Bretagne, je peux le faire dans. Je n'ai pas besoin d'accréditation.
Oui.
C'est ça.
Puis si tu veux venir à Uzès, là, chez la famille de Marc, tu me dis. Hein.
Oui.
Hein,
oui.
Tu me dis, vous y réfléchissez avec Marie-Bonne.
Oui.
C'est. Voilà.
Marc Oser, c'est
ça. Oui.
Oui. On va aller en Bretagne quand même un petit peu, parce que.
Vous allez en Bretagne quand, au mois de juillet?
Oui, on va en Allemagne d'abord. Tu sais,
Oui.
Je vais à Potsdam et on a pas on va rester une dizaine de jours en Allemagne, donc jusqu'au 15 juillet, on va être pris. Et après, on va, je pense, aller en Bretagne.
D'accord.
Mais en août, ça,
oui, pourquoi pas.
Ah oui, ça c'est sympa. Oh là là. Et puis, oui, d'ailleurs, je t'ai pas dit, il y a un collègue qui compte sur moi pour faire le cours sur Maro, le cours d'agrégation sur Maro.
L'année prochaine.
Oui. Cela dit, c'est tentant aussi, mais bon. Oui, 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 mais en fait, c'est pas drôle. C'est-à-dire que je travaille tout l'été sur Maro. Bon, je vais voir, je vais discuter avec lui la
semaine prochaine.
Toi aussi. Oui, mais je suis content d'avoir la question de diminuer parce que ça me remet en. C'est des trucs que je sais. Partie en totalité, mais ça me remet dans le bain. Je dois faire aussi. J'ai accepté, j'ai signé. J'ai signé un contrat pour lancer le cabinet universaliste pour refaire la littérature protestante, la littérature du 16e.
Ça, c'est un gros boulot, ça.
Oui, oui, bon, j'ai
beaucoup, ouais.
Oui, oui. Enfin, voilà. Mais je ne perds pas de vue le Léry, et puis c'est bien que tu...
Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin pour des stands et tout.
Oui,
et
voilà,
n'hésitez pas à vous faire livrer. Hein.
Oui, d'accord.
Franchement, dites-leur, vous dites, écoutez, voilà, on a une conférence sur tel thème, préparez-moi un assortiment, oui. Ça vous soulage.
Là, j'étais allée, ouais, ça se passait très bien.
D'accord.
Voilà, je crois, c'est vrai qu'on en fait moins, les stands, c'est un peu épisodique. C'est vrai, en fait, ce que je regrette, c'est que je suis un peu toute seule.
Et
il faudrait créer une équipe un peu au niveau de l'église, parce que même si je ne suis pas disponible, il n'y a pas.
Ou alors vous nous dites.
Merci beaucoup.
Oui. Oh oui.
Merci. C'est très intéressant.
Il faut remercier.
Oui, mais vous aussi. Très bien. En tout cas, merci.
Ou alors vous leur dites, même ils peuvent venir. Hein.
Oui.
Vous aider. Hein.
Là, pour moi, on n'a pas de.
Mais je veux dire, ça peut... Si ça peut vous permettre de ne pas être seul, parce que c'est lourd, hein. C'est lourd à faire seul. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci.
À bientôt.
Bon, bon ben Franck, on se revoit.
Oui, il faut que je travaille. Gilles.
Gilles.
T'as de quoi faire.
Et tu repasses à Paris
Je reviens, je repasse la semaine prochaine, mais courtement, parce que je viens pour une conférence au Mantois. Après, je descends à Cholet pour une réunion de libraire. Après l'après-midi, il y a une conférence avec Céline Borello et Jean-Clément Martin.
Ah oui, voilà. Je ne pourrais pas y aller parce que...
Mais c'est à Cholet, hein.
Ah oui.
Ça, c'est à Cholet.
Oui,
c'est le 2 juin.
Bonjour.
Donc ça, non... Donc voilà, je repasse, je vais au Salon du Livre à Fontainebleau, au Salon du Livre historique là, on fait un stand, donc voilà, ça sera assez chargé, et après je reviendrai le 13 juin.
Je serai en Israël.
D'accord. Et puis après je reviendrai début juillet. Voilà.
Je risque d'être en Allemagne.
Bon, on se contacte, t'inquiète pas.
Okay. Et puis, oui, s'il y a encore des choses à faire sur le livre.
Ben oui, mais là il faut que tu regardes.
Je vais regarder.
Tu regardes et puis tu me dis.
Non, mais la dernière séance,
on a bien travaillé.
Ah oui, j'ai senti qu'à un moment donné, ça a fallu. Il y a du boulot.
Oui, il y a du boulot. Oui, tout à fait.
Et quand est-ce qu'il faut que je dise?
Alors, ça, je l'achète à qui?
Bah, je pense qu'il ne faut pas trop tarder non plus parce qu'il risque de.
Je vais en parler.
Parle-en à Marie-Bonne.
Ok. En tout cas, je te salue.
D'accord, tu l'embrasses bien.
Au revoir.
Oui.
Marc.
Oui, et donc pour la maison, là, on en reparle.
Oui, c'est chez ma sœur.
Oui.
Il faut qu'ils disent quand au plus tard.
Je lui demanderai. C'est quand le moment où vous venez
Août. Août nous conviendrait mieux, mais c'est à vous de dire.
Et pour combien de personnes
Deux seulement.
Deux. J'en parle à ma sœur.
Malheureusement, nous n'avons pas de petits enfants.
Ah ouais.
Ça viendra peut-être.
J'en parle à ma sœur. Par Franck, je vous ferai savoir la réponse.
Hein? D'accord. À bientôt.
À bientôt.
Salut Franck.
Il est parti ou il est direct?
Oui.
Il n'avait pas le temps ou...
Ouais, non, je pense pas.
Je n'ai jamais dit que c'était un Dandelion, mais j'ai un Calvin, je voulais lui dire. Parce qu'il y a quand même quoi, il s'en Dandelion, il y a un Dandelion.
Peut-être.
Ici, hein?
Ah, peut-être, hein. Je le prends.
Donc je l'ai découvert, peut-être.
Mais tu ne peux pas l'affirmer, quoi.
C'est un Dandelion. C'est un
Dandelion.
C'est très grand.
Ouais.
Qui est en petit haut.
Ouais.
Même lui, il dit mystique. Tu vois, c'est quelque chose qui dépasse.
Vous mettez l'ordre
oui. Par contre, je croyais que Pétrarque, le poète italien, je croyais qu'il copie les antiques.
D'accord. Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas assez Pétrarque.
Est-ce qu'il est un père de la Renaissance à l'Italie ou c'est un grand-père?
Avec Dante, oui.
Dante, oui. C'est pas des grands-pères
plutôt. Non. Non, c'est des pères de la Renaissance italienne parce que la Renaissance italienne, le Quattrocento devance. La Renaissance française.
Le 400, c'est quel siècle pour toi?
C'est 14e. Le 13e, pardon. 13e.
Et non.
Si
c'est le 15e.
Ah bon?
Non, mais
ça. Bon, bah, alors c'est le 300, alors. Bon, je m'en fous. Mais en tout cas, la Renaissance italienne devance la Renaissance française.
Ah, c'est largement.
Non. Donc Pétrarque et Dante sont des.
C'est quoi, tu les mettrais? C'est-à-dire, tu dirais qu'en 1300, déjà, c'est la mort de la Renaissance.
Oui, je dirais ça.
Je dirais ça en 14e.
À vérifier, peut-être. Mais pour moi, oui. Moi, je ne suis pas spécialiste plutôt de littérature.
Hein,
mais Dante et Pétrarque, c'est milieu 14e, non?
Savonarole, c'est 15e.
Ah, c'est 15e, ça.
C'est
ouais.
Plus tard. Mais Dante, tu as raison. C'est au milieu de ces 13 écoles.
C'était en 1340, quelque chose comme ça, moi.
Juste avant.
Donc, oui, c'est la Renaissance. C'est déjà la Renaissance.
Je sais pas ce que je suis sûr de ça. C'est eux qui
montrent
le retour aux sources. Parce qu'on dit que la chute de Constantinople, elle a fait calmer la nature.
Alors, c'est parti pour le remercier de votre part. Je trouve très intéressant.
Il est passionnant, hein.
Ah oui, il est parti vite, il doit être. Mais moi, j'aurais aimé le faire en direct.
Non, il est super, ouais. Il a une capacité à clarifier les choses.
Oui, oui, oui. Alors bon, peut-être pour quelqu'un qui n'a aucun repère, c'est peut-être un peu
dangereux. Oui. Oui. Qu'il pourrait partir dans des.
Ah oui, oui, oui. Il est d'une grande subtilité.
Les noms qu'on peut reconnaître quand même, c'est normal quand on est
poétique.
Mais en même temps, bon. Alors pour quelqu'un qui ne sait rien, c'est un peu difficile. Il vaut mieux avoir un petit arrière-plan quand même. Avoir entendu déjà parler de 2-3 noms. Mais sinon, c'est très rapide.
Oui, oui. C'était la
vie. Oui, oh, puis il n'a pas le nez dans les notes. Hein.
Ah non, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Non, mais je suis ravi que ça vous ait plu.
Oui, bah, c'est peut-être un plus grand public, mais
le titre n'était pas grand.
Voilà, il faut s'intéresser à la question quand même. Mais c'est très beau cet après-midi, et il y a des matchs à la télé. Il n'a pas eu de chance, là, quand même.
Ah,
Franchement, c'est très intéressant. On
ne
décroche pas, quoi.
Oui, ouais,
on
ne
décroche pas.
Il y a un moment. Il tient en haleine. Mais le 13 juin, ça sera pareil. Hein.
Bien sûr, ça ne sera pas pareil. Parce que c'est un peu plus tribun comme genre, du Hamel, tout ça, non?
Ouais.
Bah, c'est... Alors, par contre, il y a pas de
téléphone. Ah, mais c'est un feu d'artifice.
J'ai vu des trucs,
venez écouter Patrick, c'est génial.
C'est un samedi?
C'est un samedi, ouais. Non,
c'est un mercredi.
Ah, c'est
un mercredi.
C'est le temps de l'étoile.
Ah bon, d'accord, on veut y aller au bon endroit.
Ah, c'est pas le même endroit, l'oratoire, c'est pas l'étoile.
On est dans les vieux temples, là, mais...
Ouais, on n'a pas emmené nos programmes, alors...
Oui, c'est ça, ouais.
Ah, il faut qu'il corrige la...
D'accord, c'est à l'étoile.
C'est à l'étoile. Okay. C'est à l'étoile, ouais. Voilà.
Oui, t'as dit le rapport.
Très bien. J'ai mis la date déjà.
Vous allez sur notre site. Vous allez sur notre site de la librairie, ce sera indiqué. Hein. Ouais. 15 jours avant, on l'annonce. Ouais.
C'est la première fois que vous venez ici?
Pour une conférence, oui.
Ouais. Non, mais le local aussi.
Non. J'étais venu rencontrer David déjà.
Ouais, d'accord.
Et puis après, on s'était reparlé pour organiser cette conférence. Ouais. Puis il y a une dame là qui s'occupe un peu des stands. donc qui passe à la librairie aussi.
Nathalie,
voilà.
Oui, alors on a un stand dans le. Alors on n'a pas tout l'espace pour des stands, tout comme ça. Le stand d'église, c'est un peu compliqué.
Ouais.
De temps en temps, il y a. Souvent, quand il y a l'apéritif, il y a les journées stand un peu plus développées.
Voilà, c'est ça. Mais je lui ai dit qu'il ne faut pas qu'elle hésite de demander à un libraire, même de lui préparer, de le livrer, c'est l'officier de ta vie, quoi.
Ah ben
ils peuvent même venir aider, parce qu'elle me dit que je suis un peu seule pour le faire.
Elle est un peu marre, là.
Ah oui, je lui dis, mais n'hésitez pas.
Elle le fait depuis longtemps, elle va les chercher, elle les ramène.
Ah oui,
elle travaille à temps plein, elle vit bien oubliée. Bon, voilà, c'est compliqué, hein.
Je lui dis, mais demandez à mes libraires, sur telle thématique, préparez-moi 40 livres ou 50. Ils viennent, ils le posent, ils peuvent même faire les ventes, voilà.
Donner un coup de main.
Oui, voilà.
Oui, ça, ouais, peut-être qu'on pourrait oser demander un peu plus. Quoi, parce que là, elle a assumé la charge et bon, ça commence à lui peser.
Elle m'a dit que ça lui pesait, oui. Ouais. Faut pas qu'elle hésite, oui. Tout à fait.
C'était passionnant.
Hein, oui, bon, bah, tant mieux.
Très bien. Il est parti trop vite, là, mais bon, vous lui transmettrez.
Non, c'était vraiment passionnant. Ouais. Pas de ce pas, mais Clément Marot, je vais y aller.
Mais écoute, on en chante moins souvent maintenant parce qu'on a plus aussi des chants plus récents.
Ouais, hein. Ouais.
Mais bon, ayant grandi là-dedans quand même, moi, les Clément Marot, j'en ai bouffé. Hein, Clément Marot.
Ouais.
Et je me souviens que je suis arrivée en seconde à l'époque, on faisait le 16e et le 17e en seconde, on y allait chronologiquement en littérature. J'ai vu Clément Marot dans mon livre de classe et ça m'a bouleversée recueil de littérature, l'anthologie de littérature, parce que pour moi, le monde du dimanche et le monde de la semaine, ils étaient séparés. Et de voir qu'un auteur dont je chantais les cantiques était dans mon anthologie de littérature.
Il n'y avait pas Calvin aussi?
Alors,
parce que il y a eu Calvin dans la gare de Michard.
Oui, dans la gare de Michard, effectivement. Oui. Et ça m'avait vraiment fait quelque chose. Je me suis dit, ah mince, il y a des gens connus qu'on chante, quoi.
Ah oui, oui. Non, mais Marot, c'est génial. Hein.
C'est génial. Non, mais c'est vrai. Et puis, on habitait à côté de la librairie, je suis allée à plusieurs reprises. Mais souvent, à l'école de dimanche, pour les fêtes de fin d'année, je voulais trouver de la poésie que les enfants pouvaient réciter au lieu d'essayer de faire un spectacle, etc. Mm-hmm. J'ai eu un mal fou. Mm-hmm. Enfin, je ne trouvais pas. Mm-hmm. Je trouvais pas le texte à apprendre.
Les enfants,
parce que...
on leur fait réciter du Ronsard, ils peuvent réciter du Marot. Bah,
non, mais tu sais, quand on apprenait des chants, quand moi je faisais des chants, ils apprenaient tout par cœur.
Ah oui, moi je suis pas
donc,
par cœur.
Donc, de faire une poésie ou un cœur chanté, ou un cœur parlé, tu vois, j'arrivais pas à trouver les textes qu'il fallait.
On a un rayon poésie, là, à la librairie.
Mais non, mais je suis venue discuter avec la dame et puis j'ai pas trouvé mon bonheur.
Ah oui, parce que c'est une bénévole qui remplace les deux libraires parfois. Donc il faut.
Mais c'est vrai que je trouve les enfants, de toute façon, quand je chantais avec eux, ils apprenaient par cœur tout. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Mais ça rentrait comme ça et je disais. Pour les fêtes de fin d'année, etc., ce serait bien de faire un chœur chanté.
Bien sûr, c'est une bonne idée.
Un chœur parlé, en plus des chants, mais bon.
Oui, on l'a, le psautier, en plus, ça aussi. Hein. Pareil.
Non, mais sans doute, la poésie est difficile pour les enfants, mais c'est vrai.
Je trouve que c'est une poésie assez simple, moi. Hein.
C'est vrai.
Ouais, franchement.
Je vais...
Puis les enfants, ils intègrent assez facilement. Hein.
Oh non, mais
c'est impressionnant.
Des éponges.
Ah oui, tout
des
à fait.
Éponges. Ouais. Des éponges. Et c'est vrai que j'ai chanté avec eux pendant des années et des années et des années. Trois chants à Noël, trois chants en fin d'année. Si j'ai chanté avec eux 8 ans, ils ont un... Et puis, je choisissais les chants avec soin. Chose moderne, chose plus ancienne. Pour essayer d'avoir... Mais non, ils partent avec un bagage. Et comme je les obligeais à prendre à cœur, en principe, c'est à peu près.
Oui, c'est bien.
Okay. Je repasserai vous voir.
Oui.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
La question d'Internet au niveau banque,
c'est ça, Il y en a beaucoup. Mais quand vous avez Amazon, plus bonne qualité, les vendeurs.
Ah oui.
Oui. Bon, on va y aller. Hein. 7h, on a, c'est notre train est à 8h05, c'est bon.
8h.
C'est juste que je regarde, c'est Gare de Lyon, il faut juste que je...